Nous sommes mercredi 24 février 2021. Vous avez survécu à 2020 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah
bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir et bonne année.
Bonsoir Monsieur Caduceus, que nous retrouvons après de nombreuses... De nombreux mois d'errance.
Voire années à ce stade.
De nombreuses saisons, pour en dire presque.
Saisons, hein. Bonsoir, monsieur Mecton.
Bonsoir et bonne chance à tous.
Bonne chance pour 2021. Et bonsoir, monsieur Zergui.
Salut.
Monsieur Zergui, qui est égal à lui-même et qui a vécu 2020 comme 2021 chez lui.
Voilà, comme 2019. Ça n'a pas trop changé.
C'est parfait.
Le Sauf programme... pour aller au boulot pendant les deux jobards. Hein.
Et encore. Le programme de ce soir, il est extrêmement chargé. Nous allons faire un petit état du backlog de cette pause d'un petit peu tout le monde, puisque tout le monde a joué à des jeux finalement. Alors, il y en a qui se recoupent, il y en a qui diffèrent, c'est assez rigolo. Donc du coup, on va essayer de faire un petit mash-up et de parler d'un petit peu de toutes les choses qu'on a pu jouer depuis Noël, en fait, en gros. Nous ne parlerons pas de Bowser Fury ou Little Nightmares 2, c'est-à-dire les deux grosses, je mets des R guillemets, c'est les premiers de la 17e saison, je suis très content.
Joli.
Des grosses, voilà, nous parlerons de Super Mario 3D World, de Bowser Fury dans deux semaines. C'est officiel, le rendez-vous est pris. Nous allons parler donc du Nintendo Direct, premier Nintendo Direct depuis 530 jours. Il y a des gens qui comptent les jours, oui.
Ouais, alors après, il y a eu les mini qui étaient quand même bien garnis pour certains.
LOL. Nous allons tout de suite commencer par un tout petit tour de table de l'actualité. Voilà, et effectivement, on nous dit dans le chat...
Et voilà, c'est fini, le tour de table, on passe à la suite.
Non.
Musique. Alors
juste
musique.
Deux, trois trucs, on l'avait tweeté un petit peu avant, mais Linux sur N64, ça ne sert à rien, mais c'est drôle. Mais ça ne sert
Pourquoi
à rien.
Pourquoi pas.
Mais ça sert à rien.
Alors la question, c'est est-ce que ce sera plus stable ou moins stable qu'avant? Et est-ce que ça compte vraiment?
Alors ça compte vraiment parce qu'il y a un vrai terminal. Et tu peux toujours rien faire avec, enfin, je veux dire, le principe, c'est juste d'arriver à faire tourner Linux sur le CPU, sachant que c'est une version... élagué de plein de trucs, puisque forcément il n'y a pas besoin de pile réseau, il n'y a pas besoin de...
Et puis bon, est-ce que ce sera facile de taper des requêtes Linux avec juste 4C, un A, un B, un Z, un R,
et
un L?
Tu as un clavier visuel et quelques raccourcis sur la manette. On espère que bientôt ils pourront faire tourner le 64DD.
En plus, ce qui est con avec Linux sur 64, c'est que la souris N64, tu peux pas t'en servir non plus.
Non, alors je sais pas s'il y a un clavier N64.
Possible. Bah, faudra regarder Stop Skeleton From Fighting, parce qu'ils en font souvent des trucs comme ça.
Peut-être avec le 64DD, justement, t'en as peut-être eu un, puisque tu pouvais le connecter à Internet.
Il y avait une souris, ça c'est sûr, est-ce qu'il y avait un clavier?
Que tu pouvais trash-talk les gens à Mario Kart 64 en ligne.
Tu peux pas faire grand-chose avec le 64DD de manière générale.
Je joue au gyroscope. Ah non, pardon.
Tu peux te la péter parce que t'en as un, c'est déjà pas mal.
Copy Everything From Switch. Les manettes PS5 Drift, monsieur Mecton, qui nous a apporté cette magnifique et incroyable nouvelle.
Alors après, est-ce que ce sera dans les mêmes proportions que les Joy-Con?
C'est que... kiff-kiff, a priori.
A priori, c'est le même fournisseur, donc je vois pas de raison.
Oh putain.
Voilà, en fait, ils ont tous acheté des trucs de merde de chez Alps, et du coup, toutes les manettes Drift, même celles de la Xbox. Voilà, cherchez pas.
Ouais, après, monsieur. Est-ce que c'est dans des proportions aussi élevées que ça fait depuis 4 ans et on n'a rien fait
Bah on verra, parce qu'il faudra
juste moins.
Voilà, c'est ça, faut déjà qu'ils en vendent des PS5.
Bah faudrait qu'il y en ait en fait.
Qu'ils en produisent.
Ok, donc je vois que le troll a atteint, ça y est on a
Ouais mais il paraît qu'elle est sortie. Hein.
Ah bon?
Ah il paraît.
Ouais.
J'ai cru comprendre qu'il y avait un jeu de PS3 au lancement.
Oui.
C'est Dark Souls, hein. Enfin c'est Demon's Souls, mais c'est pareil.
C'est pareil.
Ça va être vraiment pareil, enfin c'est compliqué.
Bloodborne, jeu de la décennie, hein. LOL.
Sérieux?
Non, ça n'arrivera pas.
Ah,
je crois que les votes sur Gamekult avaient été validés.
Je crois qu'ils révèlent que samedi soir, je crois, un truc comme ça.
Moi, ça va être samedi pendant l'émission, je pense. Bon, ce sera là-dedans. J'espère.
Y a une autre petite nouvelle intéressante du côté des préservationnistes, ça veut rien dire.
Celle-là est vachement bien, en fait, de nouvelles.
Alors, non. Enfin, oui et non, c'est un peu
ça. Oui et non, moi je la trouve intéressante, mais... Enfin,
c'est intéressant. On va vous le dire, donc la bêta... Alors la bêta, pas vraiment la bêta en fait, parce que finalement, la ROM de Dinosaur Planet, qui est donc l'ancêtre... est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, on peut dire ça comme ça, de Star Fox Adventures, qui est en fait le brouillon entre les Star Fox Adventures, l'original, qui devait sortir sur N64, qui était fini. C'est-à-dire que officiellement Rareware a dit il est fini, il reste le debug à faire. Donc en fait, on a une ROM qui effectivement qu'on peut considérer comme une espèce de release candidate ou effectivement de bêta. Elle a été fuitée. Donc on peut accéder à ce jeu-là et on peut donc faire la comparaison entre Star Fox Adventures,
le
jeu
aussi fini retail, que Cyberpunk.
Alors il est plus fini que Cyberpunk. Il y a moins de bugs.
Les PNJ sont plus jolis.
Les PNJ sont plus... ça dépend des versions.
Les textures chargent mieux. Et qu'il n'y en a pas.
Bon bref, donc c'est la bêta de Dinosaur Planet, qui n'a jamais été terminée, qui est devenue Star Fox Adventure après, mais qui a gardé une structure étonnamment similaire. Je sais pas... Alors, est-ce que je suis le seul à y avoir joué, du coup ?
Oui.
Il semble.
Alors, pour vous donner un avis objectif, hein, comme toujours...
En trois mots.
C'est de la merde.
Merci.
Ça fait quatre.
Désolé. Malheureusement, il a le même défaut que Star Fox Adventures, c'est qu'il est Star Fox Adventures. L'intérêt historique de ce leak est énorme, parce qu'effectivement, ça permet quand même d'aller se rendre compte de l'état d'avancement du jeu. Effectivement, le jeu est quasiment fini, j'ai croisé un bug. J'ai zappé un dialogue avec un PNJ à un moment et j'ai pas pu finir la séquence d'après. Donc il y a quand même quelques bugs dedans.
Alors du coup, est-ce que la difficulté est quand même mieux gérée que dans Star Fox Adventure? Parce que c'était quand même bien de la merde, ça aussi.
Alors, j'ai joué à peu près une heure, donc j'ai fait les deux premières zones de jeu. Ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue gameplay, c'est la même chose. Le jingle Zelda accompli quelque chose, c'est le même. Le même que Zelda. Donc ça fait... C'est pas une connerie.
Ce placeholder de qualité.
Sérieux, ouais. C'est... Enfin, il y a peut-être une petite variation, mais c'est assez flippant. Donc ça reste un Zelda-like. L'utilisation des items et tout ça reste à peu près aussi pourrave. Le compagnon, je l'avais pas encore, je crois. Mais j'ai peur que ce soit aussi pourrave. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit mieux sur N64. Le seul truc, c'est que pour de la N64, le jeu est quand même sacrément beau. Alors, il rame à mort, c'est-à-dire qu'il tourne à 20 images secondes maximum.
C'est un jeu 64, quoi.
Voilà, mais globalement, il est très très joli. C'est-à-dire que les textures sont très jolies, il y a des animations faciales qui sont assez bluffantes. Alors, c'est juste les textures qui sont animées, mais il y a quand même plein de textures qui, avec les yeux fermés, demi-fermés, tout ça, c'est quand même assez ouf. Maintenant, malheureusement, ça reste Star Fox Adventure, c'est-à-dire pas un jeu de qualité.
Paf.
Oh.
Voilà, donc...
Donc il y avait des raisons de se débarrasser de Rare.
Il y avait des raisons de se débarrasser de Rare, mais je crois que c'est Cyril qui avait lui-même dit il y a quelques années qu'en fait on sentait déjà les craquelures sur la peinture quelques années avant que Nintendo vende Rare. Et en fait, quand tu vois des jeux comme... ça va être très cruel, mais Jet Force Gemini, Donkey Kong 64...
Banjo-Tooie.
Tu sens que les mecs, ils avaient déjà un peu perdu le mojo, quoi.
Bah, en vrai, Rare, je pense que pour moi, leur pic, c'était Banjo-Kazooie, hein, en termes de qualité de jeu et vraiment de Magnum Opus, je pense que c'était Banjo-Kazooie le mieux qu'ils aient fait, quoi.
Parce que même Conker's Bad Fur Day, pour toute la réputation qu'il a, c'est un mauvais jeu.
C'est un mauvais jeu, oui, clairement. Je pense que ce qui a marqué avec Conker, c'est que c'était un jeu Nintendo 64 avec un... Enfin, qui était pour un public adulte pipi caca, hein, enfin plutôt adolescent.
Complètement irrévérencieux. Ouais.
Ça ressemblait pas à un jeu publié par Nintendo, quoi.
Il est pas publié par Nintendo, il est publié par THQ.
C'est vrai.
Conker's Bad Fur Day, c'est un jeu qui est drôle fondamentalement, mais c'est un jeu blague en fait. D'un point de vue gameplay, il est creux.
C'est affreux. Je crois qu'il a une réputation des phases aquatiques qui est. Elles sont absolument abominables. Hein.
Tu regardes le Great Mighty Pooh, alors c'est très drôle parce qu'il y a la chanson, ça ressemble à un opéra et tout, c'est en trois actes en plus, enfin, c'est très méta, c'est très marrant. Maintenant, basiquement...
C'est le boss caca, hein, c'est ça ?
Oui.
Ça.
Tu balances des rouleaux de PQ.
Voilà, tu vas sur des Switch où tu lui lances des billets de rouleaux de PQ dans la bouche, en fait. T'as trois endroits où tu lui lances des rouleaux de PQ, c'est tout ce que tu fais.
Ouais, l'intérêt de ce combat, c'est qu'il fait de l'opéra en parlant de merde.
C'est ça, donc c'est compliqué. Mais bref, je pense que Dinosaur Planet est un autre... exemple de, c'est un clone, comme Star Fox Adventures finalement, on peut faire le même reproche, c'est un clone de Zelda, le seul truc un tout petit peu intéressant, c'est que là effectivement t'as des furries en low poly, not my proudest fap, mais je pense qu'effectivement, Donc d'un point de vue historique, c'est très intéressant. Je vous encourage à le lancer sur un émulateur parce que c'est, enfin, c'est vraiment hallucinant. Vous avez vraiment le début de Star Fox Adventures, la première heure, c'est la même, quoi. Copier-coller.
Bah, je t'avoue que ça me donne envie de tester.
Si ça te donne envie de jouer à Star Fox Adventure, c'est triste. Hein.
Star Fox Adventure, c'est Dinosaur Planet avec des poils en plus et Fox. C'est tout. Ça.
Non, mais pour comparer. Mais alors, qui est le héros, justement?
Justement, c'est pas Fox qui était jouable. Hein.
Non, c'est Crystal, qui était comme dans le début de Star Fox Adventure. Et moi, en fait, je crois qu'à un moment, il y a Endover, c'est-à-dire qu'il y a un autre personnage qui prend le relais. Mais j'ai pas été assez loin pour le voir.
Et apparemment, il y a Fox dans la version de 64 qualifiée. Ah. Hein.
C'est ce que j'ai, oui, ce que j'ai compris, Fox, enfin, tu joues avec le personnage qui était Fox, et au bout d'un moment, ça devient Fox. Tu sais, tu sens qu'ils avaient déjà commencé à faire les modifs.
Oui, ce qui est pas impossible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement de quand date cette version. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une version à qui, je cite, il manquerait juste le debug. Maintenant, juste le debug, ça veut peut-être aussi encore dire qu'il y a quelques modifs, notamment, peut-être pas de scénario, mais peut-être effectivement de design de personnages, de choses comme ça. Pas impossible.
Ouais, surtout peut-être du polish sur les dernières zones de jeu. Hein.
Exactement. Dernière petite nouvelle, et c'est Monsieur Zergy qui nous la porte, celle-ci. Alors, il nous avait déjà porté le Linux sur N64. Mais la sortie prochaine du N64 Digital, qui est donc un
qui est déjà sorti, je crois.
Qui est déjà sorti, pardon.
Ouais. De mémoire.
Et qui est donc un remplacement de l'Ultra HDMI, qui est l'adaptateur HDMI pour N64, qui est en rupture de stock depuis fort longtemps, qui d'ailleurs doit plus être fabriqué même.
Il est plus fabriqué puisque l'auteur du Ultra HDMI bosse sur une version 2 depuis mi-2019. Et il a arrêté la version 1.
D'accord.
Du coup, depuis presque 2 ans, c'est la dèche.
Alors après, alors toi t'en as une, d'ailleurs, que tu avais ramenée la dernière fois qu'on s'était vu avant le Covid. Et qu'on avait pu essayer, c'est vrai que le résultat était déjà impressionnant. Est-ce qu'il faut attendre quelque chose de plus impressionnant du N64 digital ou finalement c'est juste pareil. Sera dispo?
Non, c'est la même chose. Ah si, je crois qu'il fait aussi la sortie RVB en même temps, via le multi-out.
Ce qui est sympathique. Effectivement, la double sortie, c'est quand même une bonne option. Je crois que il y avait l'option qui était proposée sur le NES HDMI, alors je sais plus comment il s'appelle. NES HDMI, je crois. Bêtement, qui proposait l'option d'avoir effectivement une sortie double sortie, une sortie analogique RGB et une sortie numérique HDMI, qui te permettait donc de jouer sur un moniteur CRT si tu avais envie et d'avoir une sortie numérique pour enregistrer juste à côté. Ce qui est quand même sympa. On a beau dire, hein, ça simplifie quand même un peu la vie, surtout pour les vieilles consoles comme ça. Bref.
Le truc qui avait dégoté Zergy, je trouvais ça génial, la nouvelle catégorie de speedrun de Dragon Quest 3.
Ah oui, c'est génial. J'avais pas noté dans le conducteur, mais c'est génial, effectivement. Alors vas-y, Mecton, parce que je te laisse la primeur sur celui.
Alors, je n'ai pas lu les détails, mais a priori, si on fait chauffer la cartouche du jeu à la bonne température, on se retrouve niveau 99.
Putain de merde.
Ah, mais ça, c'est un truc qui a été trouvé en fin d'année par des Japonais qui ont juste foutu leur Famicom sur leur plaque chauffante.
Tu peux pas le faire en émulateur. Vive la cartouche.
Joli.
Moi, j'attends la version HDQ où le mec se ramène avec son gaz, son camping gaz, et puis il met sa Famicom dessus.
Hot plate run.
C'est ça.
Ah, mais putain, mais comment il a eu l'idée, le mec?
En même temps, il y avait un
boiling water pour son.
Il y avait une run assez spéciale de GoldenEye, je crois. Où en fait, il y a un mec qui s'était rendu compte que sur GoldenEye, sur N64, si tu branchais une manette dans le port numéro 2 et que tu écrasais avec ton pouce la puce qu'il y a à l'intérieur de la manette, accrochez-vous, hein, le jeu allait plus vite. En fait, ça overclock le jeu. Et donc, le mec avait publié un record hallucinant sur je sais pas quel niveau. Il avait battu le record officiel de genre plus de 10 secondes et tout ça. Les mecs étaient là, genre putain, comment c'est possible et tout. Et le mec a expliqué après en vidéo que ouais, il suffisait de l'écraser. Donc, évidemment, la méthode a été interdite juste derrière parce que bon. Voilà. Bref. Donc, dans le speedrun, des fois, il y a des gens qui font des expériences curieuses et je me demande s'il y a une partie qui doit être le hasard quand même.
Non, mais là, tu as chauffé la cartouche.
Tu vois, le mec l'a peut-être
laissé. Informatiquement, je comprends pas comment ça va aller éclater la zone mémoire pile qui va bien, quoi.
Bah, je sais pas, c'est des composants qui sont soumis à un certain stress et qui, comme tu sais, les fameuses particules stellaires qui tapent de temps en temps sur les commandes d'un avion. Il y a une histoire assez célèbre comme ça d'un Boeing qui faisait un vol d'essai. Il y a 3 ou 4 particules stellaires qui ont frappé en fait le CPU principal de l'ordinateur de bord, qui a dû reset complètement 3 fois durant le même vol.
Bordel.
Voilà. Parce que la loi de Murphy, bien sûr.
Putain.
Et je rappelle la loi de Murphy, le célèbre corollaire de Blumfeld, hein. Si quelque chose n'a pas merdé, c'est que t'as fait de la merde. Non, c'est pas ça. C'est... Si la tartine tombe du côté non beurré, c'est que t'as beurré le mauvais côté. C'est extrêmement important. Bref, nous allons nous écouter un petit morceau. D'ailleurs, faut qu'on se dépêche parce que là, ah, il va partir tout seul. Bon, je t'intercale.
Titre.
Un truc. Stop.
Oh, joli, joli, joli.
Nous allons donc nous écouter.
Merci.
Une petite dégueulasserie des familles.
Ah, vous, parce que nous, on l'entendra pas.
Si vous allez l'entendre quand je vous aurai dit le titre. Donc il s'agit d'un morceau de la bande originale d'Extreme G3, un morceau qui est associé à la piste qui s'appelle Atradaitoshi,
qui est la
4e ou 5e piste du jeu, qui est composée par, alors attendez, je reprends mes notes, qui est composée par R2M et DJ Wild, et dont le titre traduit en français est donc « Hey Platiniste, donne-moi une grosse bite ». Voilà, nous écoutons donc ce morceau qui
effectivement, une belle dégueulasserie.
50. À tout de suite.
Combien ? Give me a fat beat!
Peuvent avoir jusqu'à 128 pixels de côté. C'est énorme!
C'est bien monstrueux et j'adore ça.
Et nous voilà de retour.
Tour!
Stop. Le casu est décédé.
C'est moche. Il a crevé.
Alors, on va faire un petit tour, donc, comme on avait dit.
Tour!
Stop. Du backlog d'un petit peu tout le monde, puisque bah, pendant ces presque 2 mois d'absence... Ah, 2 mois d'absence.
Bah oui, hein, même plus, hein.
Même 3 mois d'absence.
Presque. Non, peut-être pas 3 mois quand même.
Presque 2 mois et demi.
Presque 2 mois et demi d'absence.
Bah, la dernière fois, c'était mi-décembre.
C'est ça. Bah, on a joué à des trucs, et du coup, bah, on va vous reparler un petit peu de ce à quoi on a joué, sachant qu'il y a des choses dont on reparlera tout de suite après, parce qu'il y a des choses qui sont liées, il y a des choses sur lesquelles on discutera un peu, il y a des choses sur lesquelles on va passer rapidement, simplement pour dire, bah, voilà en quoi on a joué, voilà pourquoi, et ainsi de suite. C'est la petite section... La petite section raconte ta life pendant la pause... Mais qui a toujours de l'intérêt. Je vais commencer par Zergy avec PC Building Simulator. Est-ce que tu t'enfonces ?
Je m'enfonce puisque j'ai acheté l'extension et je l'ai torché.
Je me disais, on avait déjà parlé de ce jeu.
C'est le jeu de la route.
Il me l'a vendu.
Et il nous l'a vendu. Hein.
Alors, ceci dit, attends, on se fout de ma gueule parce que je vois ça, mais si un jour on sait pas de quoi parler, faudra qu'on cause de pourquoi ça se vend, les simulateurs de boulot.
Parmi
les grosses ventes de jeux, t'as quand même Euro Truck Simulator et Farming Simulator.
Et c'est la folie, quoi. Les simulateurs allemands, c'est... Bref. Donc PC Building Simulator extension e-sport, c'est ça ?
Oui, c'est ça, ouais.
Voilà, donc une recommandation, encore une fois, un pouce en l'air. Parce que quand
voilà,
même...
lâchez les pouces bleus. J'achète.
Stop. The Messenger aussi. Alors, The Messenger, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques.
Il y a un moment, ouais.
Un an et demi de mémoire. Il y avait une édition Limited Run. C'est un jeu de ninja. C'est un Metroidvania plus ou moins ninja un peu bizarre. With a twist.
Non, tu reviens pas sur tes parts. Hein. C'est un jeu d'aventure.
D'accord.
Aventure plateforme.
Le twist, c'est qu'il y a. Tu peux naviguer entre deux univers, l'univers 8-bit et l'univers 16-bit, si je me souviens bien.
Oui, mais je crois que c'est quand t'avances dans le jeu. Mais pour l'instant, je suis pas encore assez loin.
Du coup, tu l'as spoilé, bravo.
Sorry.
Non, ça va, parce qu'en fait, j'ai découvert le jeu pendant la GDQ. J'ai vu le speedrun et ça m'a donné envie.
Ah, sympa.
Voilà.
Hades, alors Hades, ça a été... on en reparlera un tout petit peu après.
Pareil, ouais, découvert pendant la GDQ. Et quand j'ai vu le truc, j'ai fait, hey, c'est les mecs qui ont fait Bastion. Quand j'ai vu les graphismes,
et,
j'ai fait...
Et Transistor.
Ouais, voilà, et effectivement, c'est eux. Et j'ai pas beaucoup joué, en fait. Quand j'ai joué la première fois, il était 3h du match, j'arrivais plus à dormir, j'ai pris la Switch, j'ai fait bon allez, on va essayer. Et ça me plaît bien. C'est un peu dur, mais ça me plaît bien.
C'est pas mon lobbying de l'année dernière qui a fonctionné, je suis un peu déçu. Hein.
Pourtant, il y a eu du lobbying.
Clairement.
Clairement. Bah tiens, d'ailleurs, Antix, puisque tu es là, Outer Wilds, dont on reparlera un tout petit peu après aussi.
Ouais, c'est qui a été mon jeu de décuvation de Nouvel An le 1er et le 2 janvier. t'as un très bon jeu d'exploration. En plus, dont le twist principal, je pense, a été. Je crois qu'ils en ont parlé dans le Nintendo Direct.
Ils l'ont présenté, oui, ça a voilà. été dit. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure aussi.
C'est ben, le côté cyclique, forcément, ça me fait penser à Majora's Mask, meilleur jeu du monde, rappelons-le. J'ai beaucoup aimé. Très détente, très bien pour des QV aussi.
Très bien pour des QV. Dicey Dungeons, dont tu nous avais dit que tu. De toute façon, tu nous avais déjà dit que tu allais le faire.
Ouais, qui m'est un peu tombé des mains parce que la seconde moitié du jeu était un peu difficile. Au bout d'un moment, je me suis un petit peu lassé de recommencer toujours les mêmes trucs. Très bonne idée, ceci dit. L'idée d'avoir de se battre avec des dés et intelligemment retravailler à plusieurs reprises. Je recommande quand même de faire un SM si vous n'allez pas jusqu'au bout.
Hyrule Warriors, alors vous êtes nombreux sur Hyrule Warriors, puisque Mekton a aussi du Hyrule Warriors, puisque Kadu a aussi du Hyrule Warriors.
Alors ce sera YYYX, YYX, YXXXA.
C'est aussi pour
un
décuver,
petit ZR de temps en temps.
Voilà. Un petit ZR, ouais.
Surtout avec une journée de merde.
C'est un peu ça, c'est le défouloir brainless.
Ouais. J'avoue que c'est un
totalement
peu
ce qu'on demande.
C'est un peu mon jeu des pauses déjeuner en ce moment quand je suis au taf. Que je reviens au bureau.
Ah le sale.
J'ai pas le choix.
Mon dieu.
Bon, ça m'arrange bien en vrai. Mais...
Oui, je me doute. Donc, il y en a d'autres sur Hyrule Warriors. Donc, effectivement, le jeu des fouloirs, le YYYX et de temps en temps ZR.
Mais alors, ceci dit, par rapport au premier, je trouve vraiment les personnages plus intéressants de manière générale. Enfin, en tout cas, pour ceux du début du jeu, parce que je n'ai pas dépassé le chapitre 3. Donc, je pense que c'est quand même un meilleur jeu que l'original.
Ah, tu devrais avoir quelques surprises alors si tu n'as pas dépassé le chapitre 3.
Je me suis fait spoiler.
J'ai l'impression que dans le deuxième, ils avaient un simili scénario et ils n'ont pas essayé de mettre tous les personnages de Zelda.
Alors, il a vite sauté le scénario. Hein.
À partir de certains chapitres, il s'est suicidé dans les méandres du temps.
C'est un peu ça. Il a fait une timeline parallèle et ça a mal tourné.
Oh, est-ce que c'est mieux que le scénario du premier Hyrule Warrior avec un crossover géant, je sais pas.
Je te rappelle que la méchante était une fangirl de Link parce qu'elle avait des posters de lui dans sa chambre.
Stop. Est-ce qu'on pourrait ne pas reparler de ça?
Ceci est un jeu publié par Nintendo, rappelons-le.
Bon, bref. Et donc Untitled Goose Game, alors c'est pareil, c'est un peu le... Moi, j'aime bien le terme de jeu apéro, c'est vrai qu'Untitled Goose Game, c'est un peu le jeu apéro.
Bah, c'est un jeu où tu joues un troll.
C'est exactement
bien.
Ça. Moi je me rappelle, alors la gamine a trippé dessus, mais vraiment trippé parce que c'était genre, je peux faire chier le mec, je prends sa carotte, je la mets là et tout. C'était vraiment, elle se tapait des barres de rire toute seule sur Untitled Goose Game, mais je crois qu'elle l'a pas fini.
Alors,
en fait,
après,
les derniers niveaux sont quand même
court.
Un peu difficiles.
C'est court. Hein. Je l'ai fini en 2-3 sessions avec ma copine. C'est un très bon jeu de couple, du coup. Parce que si votre partenaire n'est pas spécialement adepte de jeux vidéo, l'avantage, c'est qu'elle peut prendre la manette puisqu'il y a un mode multi maintenant.
Tu as pu essayer le mode multi.
Et ça marche bien, en vrai, parce qu'il y a même moyen de se synchroniser pour faire des trucs un peu sympas. Et en fait, je pense surtout que pour la personne qui est pas forcément très douée, juste le fait d'embêter les gens, c'est drôle. Enfin, moi, c'est ça que je trouvais que marchait bien dans le jeu.
C'est ça. C'est le truc qui marche pas mal.
C'est vraiment bien fait, c'est trop mignon.
Alors, on va passer à Mekton qui a fait du Mario Galaxy au même titre que Monsieur Caduceus qui a fait du Mario 3D All-Stars de manière générale. Donc, je suppose que Mario Galaxy, c'est pas la version Wii.
Non, c'est bien dans la compile. Parce que c'est le meilleur jeu du monde, il se refait avec plaisir. Et c'est top, quoi. Ça fait du bien.
Monsieur Cadu, un truc à rajouter?
Je rajouterai rien parce que j'ai pas encore touché au Galaxy dans la compilation. Je suis encore resté au Sunshine au 64 qui se refont aussi de manière plutôt agréable. Enfin, un peu plus dur sur 64 fois, ouais, quand même.
Même Sunshine, ça t'a pas.
Alors, Sunshine, m'a jamais posé de soucis, au contraire. C'est limite, désolé, mais c'est peut-être un de mes préférés, mais bon.
Ah le sale. Mais,
voilà. Je trouve ça sympa le jet, ça change pas mal la palette de mouvement de Mario. Et c'est vrai que les niveaux où t'as pas le jet, c'est bien hard et ça j'aime bien.
C'est ce qui a servi de brouillon pour Mario Galaxy, hein. Clairement, ces niveaux-là. Le seul truc c'est que t'as pas le saut en longueur et t'as pas.
C'est vrai que le saut à longueur, ça manque. Ouais.
Après, quand t'as le jet, effectivement, tu compenses très rapidement le.
Ouais, puis t'avais le saut tourbillon qui est vraiment sympa, très peu utilisé, mais en vrai.
Moi, j'aime bien, c'est la glissade sur le bide, tu sais, t'arroses un tout petit peu devant toi.
Ah, ça, c'est génial.
C'est vrai que ça marche plutôt bien. Monsieur Mecton, toujours Borderlands.
Ouais, oui, bah c'est. Ben, parce que j'ai adoré le 2 sur PC, j'ai jamais fait le premier, je me suis dit tiens, je vais les faire dans l'ordre sur Switch, j'ai chopé la compile à 20 balles. Et alors sachez-le, si vous jouez en français comme moi, arrivé au chapitre 2, il y a le descriptif d'une mission qui fait planter le jeu.
Nice.
Donc à ce moment, à ce moment-là, tu peux accepter la mission, il faut finir la mission et ne jamais re-regarder ton descriptif. Ou alors tu passes le jeu en anglais.
Ça se patch ce genre de truc,
putain.
Ouais, mais a priori, ça sera probablement ils n'en ont rien à branler, quoi.
La finition à la pisse, bonjour.
C'est coutumier en ce moment.
De ce que j'ai vu, ça n'arriverait que là, que sur une mission. Après, voilà, je suis passé à autre chose.
Alors, monsieur Mecton, toujours qui a fait du Bioshock, du coup, alors est-ce que c'est à cause de moi ou pas?
Non, alors je les avais, pareil, déjà fait sur PC. Et pareil, la compile était à pas cher, et là pour le coup c'est un jeu que je refais avec plaisir. Toi t'auras peut-être un avis différent, mais là je le refais vraiment pour le scénario. Pour revoir le... Sans vous spoiler, c'est un jeu où la fin est très importante, et du coup à le refaire, on le refait avec un regard différent.
Alors ça oui, ça je confirme, il y a un twist, il y a deux ou trois twists dans le jeu point de vue scénario sur Bioshock 1 qui sont pas désagréables.
Ah, très bien, très méta, très bien écrit.
C'est ça. Puis très bien amené aussi. Alors, il y a deux, trois trucs que malheureusement je connaissais déjà. C'est-à-dire que le coup des petites sœurs qu'on sacrifie ou qu'on sauve, bah, je savais déjà qu'il fallait les sauver.
Et t'as fait le Jedi ou pas alors?
Oui.
Ok.
Bon, c'était plus pour le principe qu'autre chose parce qu'en fait. Alors, je vais donner un avis un tout petit peu différent. Donc, moi, j'ai jamais fait Bioshock en fait. Ni sur PC ni ailleurs. C'est un des jeux qui m'était un peu passé par-dessus parce que j'avais d'autres choses à jouer à ce moment-là. Et du coup, avec le recul, Bioshock 1, je trouve quand même que c'est un gros brouillon. C'est-à-dire que d'un point de vue gameplay, hein, je parle, le scénario est très bien, l'ambiance, l'aspect narratif, tout ça, c'est très très bien, les niveaux sont très bien construits.
T'as vu que c'est toute une histoire qui est beaucoup racontée par les détails dans les décors.
Exactement. Et ça, ça reste très impressionnant, même encore aujourd'hui, de voir la quantité, effectivement, de choses qui sont racontées dans les décors. C'est vraiment du design narratif, et ça, c'est ouf. Par contre, le gameplay est à chier.
C'est vrai.
Et la difficulté est mal dosée.
La difficulté est extrêmement mal dosée. Moi, pendant un moment, les protecteurs, les Big Daddy, j'avais arrêté de me soigner, en fait. C'est-à-dire, comme t'as toujours une vie ta chambre qui est à moins de, on va dire, une minute du Big Daddy, je lui tapais sur la gueule avec la clé à molette. Et puis, quand il me tuait, je revenais à la vie ta chambre, j'allais me soigner pour 2$, et puis j'allais lui refoutre 3 coups de clé à molette, et je faisais ça 10 fois, parce que sinon, tu t'en sors pas. Quoi.
Parce que leur barre de vie recharge pas, oui, c'est vrai.
Ouais, je me souviens avoir dû en arriver là aussi.
Non mais c'est très pénible et du coup je trouve que voilà, le gunplay est à chier, les armes sont pas assez différentes, finalement tu sais pas pourquoi l'arbalète c'est l'arme qui fait le plus de dégâts quasiment, ce qui est un peu ridicule.
Il n'y a pas de couteau dans le jeu donc c'est l'arbalète.
C'est un peu ça, j'ai remarqué aussi que balancer des rouleaux de PQ sur les mecs en télékinésie ça leur faisait plus mal qu'une mitraillette.
C'est vrai.
Bon, c'est quand même compliqué. Le fait de ne pas avoir les plasmides et les armes en même temps, c'est compliqué. Je trouve qu'il y a beaucoup de ces défauts-là qui sont adressés dans Bioshock 2. Effectivement, tu peux avoir une arme et un plasmide en même temps, déjà. Où les ennemis sont quand même un peu moins des éponges à balles. Mais en contrepartie, tu as des séquences où, d'escorte dans lesquelles il faut protéger en fait certains personnages pendant un certain temps, pendant qu'ils font quelque chose, dans lequel tu te retrouves assailli d'ennemis, et c'est juste chiant. C'est-à-dire c'est con, tu vois, c'est vraiment 2 pas en avant, 3 pas en arrière.
Scénaristiquement, ça casse un peu le rythme du scénar, quoi, du coup.
Voilà, scénaristiquement, je comprends l'intérêt de ces séquences-là, mais d'un point de vue gameplay, c'est vraiment de la merde. Et c'est dommage, parce que derrière, en termes de narration, Bioshock 2, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus quand il est sorti, en disant bah, « ça se passe encore à Rapture, finalement, pourquoi le même décor, pourquoi le machin, pourquoi le recyclage ?» Et en fait, quand tu commences à jouer au jeu, tu te rends compte que non, bah, c'est pas du tout les mêmes décors, tu passes pas du tout aux mêmes endroits, t'as pas du tout les mêmes objectifs, ça raconte vraiment des choses autrement et différemment. Et c'est encore bien foutu de ce point de vue-là. Le gameplay est un peu amélioré, mais...
Excuse-moi, l'univers de Rapture, il est sympa en soi.
Ah, complètement. Et puis moi, j'adore cette espèce d'univers dieselpunk.
Ouais, bah tu vas adorer le 3. Tu vas adorer le 3, je pense.
Ah, je pense, c'est bien mon trip. Autant le steampunk, j'ai un peu fait une overdose au bout d'un moment, autant le dieselpunk, l'univers type Wolfenstein, Wolfenstein 2, c'était vraiment ça comme univers, et là, Bioshock, c'est ça aussi comme univers. C'est super agréable. C'est vraiment... c'est top. Voilà, maintenant, je trouve qu'au niveau gameplay, bon... il y a deux, trois choses à redire. Voilà. Monsieur Mecton a fait aussi du Pikmin 3, alors pareil, c'est du refait. C'est du réchauffé.
C'est du refait. Oui, c'est du refait. Pareil, j'ai fait quelques niveaux, je l'ai pas... Je suis passé à autre chose, mais j'y reviendrai avec plaisir. Pas tester le nouveau multi, par contre. Je sais pas ce que ça vaut.
Xenoblade Chronicles.
Là, je me suis lancé un petit défi de torcher tous les sociogrammes à fond. Oh, bah, c'est pas fini, hein.
Ouf, bon courage.
Ouais. Ouais.
Attends, je l'ai fait sur Torna. Sur Torna, c'est accessible. Sur le 2, pour moi, c'est juste... Ouais. Sur le 2, c'est juste impossible. Je me suis dit, tiens, je vais essayer sur le 1.
Ouais, le 1, c'est faisable. Alors, faut aimer faire les quêtes annexes. Et celle du 1...
Celle du 1, c'est pas nul à chier. À l'époque, tout le monde disait des quêtes annexes bien écrites et tout, c'est de la merde. C'est juste des quêtes FedEx ou de collecte d'aller dégommer le même mob 20 fois à la chaîne pour trouver un objet rare. Elles sont nazes.
Honnêtement, mais... les quêtes annexes les plus intéressantes que j'ai vues dans un Xenoblade, c'est celle du X pour l'instant, et pas toutes.
Not Tonight, alors là je...
Alors voilà, là je vais m'attarder un petit peu. Je vais m'attarder un petit peu, donc c'est un jeu... c'est anglais, oui c'est anglais, forcément. Si vous avez aimé Paper Please, ça s'en rapproche énormément. Et du coup c'est un jeu très politique, qui se passe dans une Angleterre post-Brexit, qui a totalement basculé facho. Et alors on joue quelqu'un, au début du jeu on est censé choisir son background, mais en gros c'est quelqu'un qui est baisé, qui est coincé dans l'administration, quoi. Il ne peut pas prouver qu'il est anglais, donc il est considéré européen, donc constamment menacé d'expulsion. Et pour éviter ça, tu dois bosser en fait. Et le boulot qui t'est proposé, c'est un boulot de videur de boîte de nuit. Et façon Paper Please, où on jouait un douanier, tu vas devoir trier des gens à l'entrée d'une boîte, ça va régulièrement changer de boîte. Et alors je spoile pas, la première mission du jeu est très simple, elle finit sur un attentat, et après tout le reste du jeu est un flashback.
D'accord.
Ah, et c'est façon comme, Paper... c'est comme la classe américaine.
Exactement.
C'est que des flashbacks.
C'est que des flashbacks.
C'est, en fait tout ça n'est qu'un plagiat.
J'aime pas beaucoup les plagiaires.
Et façon Paper Please, donc au début c'est très simple, et puis petit à petit il te rajoute des règles. C'est moins compliqué que Paper Please. Il y a moins, dans les niveaux les plus compliqués, il y a moins de règles, mais t'as toujours ces espèces de choix moraux qui vont te dire merde, est-ce que lui là que je suis censé refouler, est-ce que je lui filerai pas le coup de main qu'il me demande pour lui simplifier la vie, quitte à ce que moi derrière ça me mette une pénalité qui va me foutre peut-être dans la merde plus tard dans l'histoire, voire changer la fin.
D'accord. Donc c'est Papers, Please, mais avec un contexte un petit peu différent, et mais le même genre, enfin recyclage du même genre d'idée.
C'est la même idée, pas tout à fait le même jeu, mais vraiment dans la même idée.
Alors Monsieur Cadu.
Oui, je pense qu'on va se contenter de un ou deux jeux pour moi, parce que
c'était une belle liste.
C'est ça.
C'est moi qui vais choisir.
Oh, ok.
Immortals Phoenix Rising, puisque tu nous as dit que c'était très sympathique, tu es le seul ici à l'avoir suffisamment avancé pour être capable de le lire.
Ouais, alors à savoir que j'y ai quand même joué sur Xbox, pas sur Switch, mais il est aussi disponible dessus. Mais en soi, c'est vrai que c'est, pour ceux qui savent pas, c'est le jeu qui est qualifié de Zelda-like de la part de Ubisoft, parce qu'il reprend en effet quelques mécaniques qu'on peut retrouver dans Breath of the Wild, comme le fait de pouvoir grimper partout, ou de pouvoir attraper une monture un peu dans la nature. Enfin voilà, c'est quelques idées éparses comme ça, mais en vrai, franchement, sur le gameplay, j'ai pas du tout trouvé que c'était du Zelda, c'est très différent, t'es pas sur de l'exploration, t'es quand même pas mal sur de l'action dans un univers grec, mythologie grecque, et avec beaucoup d'humour, et ça, j'ai vraiment trouvé ça très cool. Je sais pas si vous avez vu des trailers,
On a essayé, c'est l'ambiance grecque façon Hercule de Disney.
Ouais.
Parce que c'est un peu
c'est
ça,
vrai,
en fait.
C'est ça, ouais.
Alors moi, justement, exactement. Sur l'humour, il y en a qui trouvent... Des gens qui ont joué au jeu m'ont dit qu'ils trouvaient ça lourdingue.
C'est quoi, c'est la voix off qui les gêne, peut-être ?
Alors c'est... la voix off, c'est Xos, globalement.
Ouais, bon, c'est un personnage. Mais après, peut-être que ça, c'est dans la démo, qui ne fait pas partie, d'ailleurs, du jeu complet. Là, c'est Xos la voix off. En vrai, c'est plus l'autre... Prometheus.
Prometheus.
Voilà, Prometheus. C'est pas le même ton, mais... La voix en vrai, une fois dans le jeu complet, elle est pas si présente que ça. Tu peux jouer tranquillement, c'est uniquement au point de scénario où elle va intervenir ou à des endroits spécifiques, hein, scriptés, où elle va raconter quelques petites choses. Mais après, ce qui est cool, c'est que au final, il y a de l'action, il y a de l'énigme aussi, parce que t'as plein de sortes de puzzles à faire, de différents types. Parfois, c'est vraiment des puzzles à proprement parler, où faut remettre dans l'ordre des blocs comme les taquins. Ce genre de truc-là.
Ah non, pas les taquins.
Ouais, désolé. Parfois c'est ça, parfois c'est des trucs de dextérité, parfois c'est de la rapidité. En fait, ça c'est assez dense l'univers, l'île, c'est une île, ça se passe sur une île, c'est assez dense. Moi, je trouve que ça se joue très bien, ça s'enchaîne. Honnêtement, quand j'y jouais, je lâchais pas trop le jeu. J'étais là, vas-y, je vais me faire toute une partie de cette région-là, la région, par exemple, de Héraclès, là, comment il s'appelle, le dieu de la forge. Non, excuse-moi, le jeu de la... Héphaïstos, merci. Je dis n'importe quoi. Comme quoi, j'ai pas retenu mes leçons. Mais non, tu te laisses imprégner, enfin, aller dans le jeu. Et c'est moins, je pourrais dire que c'est, contrairement à Breath of the Wild, auquel il est beaucoup comparé, bah, t'as pas l'intimidation d'avoir l'impression que l'univers est extrêmement grand et qu'il y a plein de trucs à explorer, à aller voir. Parce que là, tu peux voler facilement aussi. Tu peux te téléporter à plein d'endroits et les déplacements sont moins fastidieux, on va dire.
Et ensuite, puisque c'est la honte, visiblement, Pokémon Let's Go. Pourquoi ?
Ah mince, j'aurais voulu que tu choisisses Dead Cell. Mais bon.
Pourquoi c'est la honte ?
Non, parce que Let's Go est très tricky. Moi, ça me fait rire. Pourquoi Let's Go ? Parce que, en fait, j'ai vraiment pas accroché à Épée Bouclier.
Ah ouais,
Je sais pas.
Pourtant, Let's Go, c'est insipide au possible. Hein.
Ouais, mais tu vois, ça.
T'as le côté nostalgie qui a pris le pas, quoi.
Ouais, il y a la nostalgie, c'est clair, mais il y a aussi un peu la sensation un peu de fraîcheur où. Ça, t'as les Pokémon qui t'accompagnent, le gameplay il change un peu, ok, par contre la capture c'est nul, on est tous d'accord.
Mais, alors moi j'ai trouvé ça mieux honnêtement, parce que ça a évité justement d'avoir à leur taper dessus, t'as juste à balancer les Pokéballs, ça l'évite.
C'est vrai que taper dessus c'est pas plus intéressant non plus, mais ça aurait pu être un autre truc que l'un de ces deux systèmes. En fait, quand j'y joue, je sais pas, je suis plus détendu qu'un Pokémon épée où je suis toujours à râler en mode putain, mais on dirait qu'ils t'ont refait une ressassée de la 6G ou je sais pas quoi, et les terres sauvages c'est pas intéressant, et le Dynamax c'est un gimmick qui m'intéresse pas trop non plus. Donc je préfère, ouais, je me dis, il est pas ambitieux, il est tout con, mais il est mignon, et puis l'univers me semble plus, voilà, il est sucré. Ouais, merci. Voilà.
Et donc Dead Cells, puisque, alors Dead Cells, ça va faire très très plaisir à Méduse, puisque c'est le jeu de l'année de Méduse depuis 4 ans, depuis qu'il est sorti.
Ah bah, forcément, mais mettre.
Il en est à 1200 heures, un truc comme
ça. Ouais, si ça peut te rassurer, Cadeus, moi j'ai commencé à jouer qu'en septembre dernier. Hein. T'es pas le seul à l'avoir.
Bon, je l'ai commencé en fait quand il l'offrait là avec l'abonnement Nintendo Switch Online pendant une semaine je crois.
Mon dieu, des petits échantillons de drogue.
Ouais, c'est ça. Vas-y, une semaine, allez, vas-y, joue à ton jeu et puis achète-le à moins 50% après si ça te tente. Et moi j'ai dit ok. Bon, en tout cas.
Il est tombé dedans.
Ouais, je suis tombé dedans, mais il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Par contre, faut insister parce qu'au début tu peux être découragé. Dès que tu meurs, tu reprends pour ainsi dire au début du jeu. Ça peut vite être décourageant.
Moi j'ai tenu une heure et puis ça m'a cassé les couilles. Donc...
Ah voilà.
Bah justement, dans ce principe de t'encourager à recommencer, je trouvais que Hades marchait mieux parce que les runs étaient plus courtes et aussi parce que t'avais quand même. Il te filait quand même pas mal de trucs pour pouvoir progresser et être plus fort à la run d'après, ce qui est pas autant le cas dans Dead Cells.
C'est vrai que c'est moins le cas.
C'est vrai que pour être plus fort dans Dead Cells, en plus, faut pas mal mourir au final.
Bah, c'est-à-dire que moi, ce qui me pose problème avec le roguelike, c'est le côté hyper répétitif et il n'y a pas vraiment d'objectif. Et en fait, moi, ça. Alors,
pour le coup, je trouve que Dead Cells, ça marche quand même très bien parce que si t'en as. Comme tu choisis un petit peu les zones que tu as visitées, l'ordre dans lequel tu as visité, tu peux varier un petit peu si jamais t'en as ras le cul de faire toujours le même chemin.
La première zone est toujours la même.
Oui, non, mais ça, on est d'accord. Bon, non, c'est lassant. Hein.
C'est vrai. Voilà.
Moi, je comprends pas les gens qui passent 1200 heures dessus. Je suis désolé, Méduse, hein. Ça te fait chier, je sais. Mais...
Alors, par contre, un truc que je trouvais très dommage, c'est que pour un jeu qui faisait hommage à Castlevania, entre autres à Castlevania, les musiques, elles sont plan. Oh là là.
Ah, c'est vrai qu'elles ont pas marqué. Et attends, est-ce que pour avoir les 5 noyaux là, il faut faire 1200 heures ou tu peux les avoir sans
ouais,
temps?
Ouais, alors elle est apparemment la 5e, faut être vénère. Hein.
Voilà, voilà. Rendez-vous l'année prochaine.
Je sais pas si je vais continuer.
Non, moi j'ai arrêté après avoir réussi en difficulté un noyau.
D'accord. Bon bref, on va faire une petite pause musicale avant de parler du Nintendo Direct. On a juste exactement un quart d'heure de retard, c'est parfait. exactement ce que j'avais prévu.
Attends.
Non.
Tout se déroule selon le plan.
Tout se déroule selon le plan. Et donc on va écouter un petit extrait de la bande originale de Extreme G2, qui n'est pas une petite dégueulasserie, en l'occurrence c'est une musique d'ambiance plutôt sympathique, qui est composée donc par Simon Robertson et Stephen Root. Et c'est en fait simplement la musique du menu d'Extreme G2, donc c'est une musique plutôt détendue, plutôt une musique de fond. Voilà, c'est pas désagréable à écouter du tout, ça dure un tout petit peu moins de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après.
Ne l'écoutez pas, c'est un piège!
Et nous voilà de retour.
Tour
bah il y en a qui sont un peu décalés.
Il y en a qui s'est gouré.
C'est pas grave. Nous allons donc parler du premier Nintendo Direct depuis 530 jours. Le Nintendo Direct du février 2021 qui vous a hypé à mort.
Celui qui vous a fait revivre.
L'ascenseur depuis le début du Covid.
Ça...
Putain, c'est ça.
Et donc, celui qui vous a fait revivre l'ascenseur émotionnel de chaque Nintendo Direct. On swipe, sur un Metroid du Zelda
et presque.
Ah, you fool.
Et presque.
Oui, il y a eu un Zelda, effectivement.
Alors, j'ai repris lâchement l'ordre qui nous avait été proposé par Mekton, qui avait un magnifique résumé sur le dojo que vous pouvez lire, où il a réussi à déduire notamment le titre définitif de projet Triangle Stratégie.
Ah, mais journalisme total.
Mais totalement.
Ce sera Triangle Stratégie, du coup, hein.
Dans Triangle Traveler. C'est parfait. Ghost and Goblins Resurrection, disponible le 25 février 2021.
Quoi, demain?
Balek. Je pense qu'on peut le dire.
Bah, enfin, tant qu'il y a voilà, en caleçon.
Ouais, c'est un peu ça.
Ce que j'en disais, c'est tu pourras pas avoir de Jock and Drift si tu pètes ta manette avant. Le jeu est parfait pour ça.
C'est exactement ça. Animal Crossing X Mario, pareil, Balek.
Ouais, il y a des tuyaux pour se téléporter à droite à gauche sur sa carte. Il y a ça qui peut être pratique.
Voilà. Sinon, c'était déjà dans les costumes, autres. Quoi.
Ça fera voyager les gamins. Ça amusera les gamins une après-midi. Alors, un truc un peu une surprise, d'ailleurs. Stop the Zombie in Revel Without a Pulse, qui est en fait... Alors, le jeu Stop the Zombie qui était sorti à l'origine, qui était une exclusivité Xbox, de mémoire. Et qui est un jeu dans lequel on est un zombie, et quand on mord une personne, elle devient un zombie, et on peut plus ou moins la diriger pour aller se venger de la ville. C'est une espèce de jeu, on va dire, de...
Chat.
C'est un peu bizarre, ouais, voilà, c'est une espèce de chat, qui est un mélange un peu entre un jeu d'aventure, parce que t'as des missions un peu différentes dans la ville. Rigolo, je sais pas, c'est pas un jeu exceptionnel, mais ça peut être rigolo, pourquoi pas. Plants vs Zombies, la bataille pour la ville du voisinage, édition intégrale. Là.
Bon, bah, ça, finalement, merci, non, merci. Finalement, EA, on s'en serait bien passé sur Switch.
C'est un peu
vous êtes
ça,
méchant,
hein.
Il est pas si mauvais que ça, ce jeu.
Ouais, peut-être qu'il est bien, mais c'est vrai que Plants vs Zombies dans l'esprit des gens, c'est un Tower Defense. Hein.
Ça reste un jeu Flash.
Ça reste. Alors, Plants vs Zombies, c'est la version, je vous rappelle, c'est la version, c'est pas la version Flash, hein. C'est la version TPS.
Ah oui, c'est la gritty version, c'est la dark version.
C'est ça, ouais,
c'est la
dark timeline.
Ça a été racheté par EA et ils se sont dit, bah, faut que ce soit dark, donc on va leur faire des flingues.
C'est ça. Mais c'est pas un mauvais jeu, hein. Maintenant ça reste à caser dans le case Payday ou les trucs comme ça, quoi. C'est le jeu multi sympathique mais pas extraordinaire.
C'est juste que ouais, c'est un peu le jeu qui est passé, qui est sorti et que tout le monde a oublié depuis, quoi.
25 euros.
Si vous le trouvez pas cher, pourquoi pas. Hades qui va sortir en édition physique, donc tous les crevards qui l'ont acheté vont le racheter, n'est-ce pas, Zerli?
Oui, tout à fait.
Moi, j'attendais l'unité de Hades.
Jouer à Hades.
Ça sera pas le premier jeu que j'aurai en physique et en démat.
Mais c'est très bien hein, que le jeu sorte en physique, parce que c'est quand même un jeu qui est très très bon, qui a été récompensé Notamment au Game Award, alors je pense que c'est ça qui a aussi un petit peu motivé la sortie physique.
Je sais pas, un Celeste avait été récompensé au Game Awards et finalement c'est quand même Limited Run qui a dû porter la bannière de ce jeu-là et pas Nintendo. Là c'est Nintendo qui le sort quand même.
Ah oui, oui, non, mais après Celeste est sorti sur plusieurs plateformes. Là pour l'instant, Hades est exclusif sur Switch en termes de version console, donc je pense que ça fait aussi partie du deal.
Ça aide.
Et ça aide pas mal, et, mais ça, c'est aussi un jeu qui a super bien marché là en fin d'année. Enfin, GameCult lui a donné le jeu de l'année, enfin les lecteurs de GameCult lui ont donné le joueur de l'année. Je l'ai dit, ce qui est assez rare pour un jeu indé, mine de rien, même sur GameCult. Ouais, c'est mérité, et je pense que ça donnera encore plus d'exposition à un jeu qui le mérite.
Pardon, oui. Tales from Borderlands, qui était donc un feu Telltale Games dans l'univers de Borderlands.
Il y a un des meilleurs Telltale Games. Hein. Vraiment, pour l'avoir fait, c'est drôle. C'est, franchement, c'est...
Wolf Among Us, pour moi.
Ah, c'est un des meilleurs, j'ai pas dit le meilleur.
Ok.
C'est
ils sont pas crevés du coup, c'est qui l'édite?
Bah, c'est, je sais pas, c'est les mecs qui ont récupéré le code source.
Bah, c'est probablement Gearbox hein, qui a récupéré le jeu parce que ça reste quand même leur licence et qu'ils le ressortent. Hein.
Mm. Possible. Monster Hunter Rise.
Bah, ça, Monster
dans
Hunter.
Mm.
Balek.
Bah, pour nous, Balek, ouais, clairement.
Taper à côté, taper à côté.
Voilà, c'est bon, pas ça.
Ouais.
Mais il y a un Dogo.
Donc, pareil. Nouveau personnage dans Smash Bros, Pyrrha et Mythra. De Xenoblade Chronicles 2 parce qu'il n'y avait pas assez de waifu.
Et, et d'épéistes avec de personnages d'animé. Il n'y avait pas assez de personnages de Fire Emblem.
Oui, c'est-à-dire que là, c'est pas Fire Emblem, on peut pas se plaindre.
Bah, alors, par contre, présentation la semaine prochaine.
Oui, présentation effectivement le 5 mars.
Le 4.
4 mars à 15h, je crois.
Le 4 à 15h, donc je vais arrêter de bosser pendant une demi-heure, comme d'habitude.
Et du coup, Xeno 2 est en rupture partout au Japon.
Normal.
C'est vrai.
Voilà, alors bon, moi j'aurais préféré que ça évite d'augmenter les ventes de jeux de merde.
T'es un enfoiré.
Oh le troll.
Bah,
oh,
tout ce sel. Vous croyez que j'allais pas le faire?
On pensait que t'avais
grandi, je sais pas.
Là, tu vois, tout ce sel plusieurs années après. Ça,
non, j'ai un running gag à tenir depuis 3 ans maintenant. Dès qu'on parle de Sony, je suis obligé de lui cracher dessus.
Ok, non, mais le running gag est tenu.
Ça veut surtout dire qu'il y avait beaucoup de monde qui connaissait pas les persos en vrai, hein. Donc ils ont acheté. Voilà.
Enfin, en même temps, je suis désolé, mais Pyrrha et Mythra, surtout... Alors, la version japonaise, le décolleté est encore plus impressionnant que sur la version occidentale.
Alors, sachant qu'en plus, dans la version Smash Bros, il aura rajouté des fringues. Hein.
Putain, c'est vrai que c'est quand même un personnage qui est un peu sans intérêt déjà dans le. Donc Xenoblade 2, je veux dire. Là...
Ah, Pyrrha, si.
Pourtant, si, elle a une énorme personnalité.
Oui, deux énormes personnalités. Parce que
Pyrrha
et Mythra.
Dans Xeno 2.
Exactement.
Pyrrha dans Xeno 2, elle est top. Mythra dans Torna, elle est top.
Alors, je suis d'accord, je trouve que Mythra a une personnalité plus intéressante que Pyrrha, par exemple.
Mm.
Même dans
et c'est toujours mieux que d'avoir Mirex aussi, d'ailleurs.
Ah oui, non, Mirex aurait été insupportable.
Il y a eu la blague dans la présentation. Rex dit merde, ça devait être moi.
L'humiliation finale, ça a été d'avoir la présentation du terrain de Xeno 2 et tu vois Pyrrha et Rex à côté, sauf que c'est le Mi. Rex.
C'est vrai qu'il est en costume.
Bref, Saga Frontier Remastered.
Alors, c'est Octopass 0.
Un peu ça, c'est clairement ça hein, pour le coup. Okay. Alors, par contre, Saga, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais c'est genre dans le côté RPG hardcore de niche, apparemment ça se passe bien. Hein. Et Frontier, de ce que j'ai compris, c'est un jeu où t'es extrêmement libre au point que tu ne sais pas où tu vas aller au début.
C'est... Ok.
C'est spécial.
Famicom Club Detective qui est donc un... Alors c'est très bizarre, il y a deux jeux, il y a The Missing Hair et The Girl Who Stands Behind qui est en fait une traduction... Alors c'est un remake ou c'est une traduction?
C'est un remake.
C'est ça, c'est un remake d'un jeu qui s'appelait donc Famicom Detective Club qui était un visual novel plus ou moins de détective qui était sorti sur Famicom et donc c'est un remake de ces jeux-là mais qui pour la première fois est disponible en...
Anglais.
Alors même pas en français du coup?
Juste en anglais. Assez cher à traduire les visual novels pour un truc de niche.
Oui, voilà, donc c'est un peu le Balek. Ouais,
c'est vrai fun que c'est fact, pas toujours traduit.
Fun fact, ça c'est un des premiers jeux de Sakamoto, le créateur de Metroid. Et a priori, c'est lui qui l'a écrit, donc je sais pas si c'est une bonne nouvelle par contre.
Nous rappelons qu'il a aussi écrit
Metroid. Désastreux scénario d'Ozorem.
Stop, c'est pas gentil de tout ce sel autour de VRM.
Après, c'est intéressant parce que ça reste quand même des très vieux jeux Nintendo qu'on a jamais eu en Europe jusqu'à présent et qu'à mon avis, très peu de personnes ont joué parce que vu la quantité de texte.
Non, je connaissais pas du tout.
Hein. Faut quand même... Voilà, franchement, je pense que la majorité des gens connaissent parce qu'il devait y avoir un ou deux trophées dans Super Smash Bros. Melee. Grand maximum.
Je suis même pas sûr, tiens, pour
celui-là. Plutôt des esprits, peut-être.
Bah ouais, je sais que dans Smash, il y a une représentation, genre très limite, c'est comme ça que je connais le nom, mais j'ai jamais au point d'y avoir joué. Mais je trouve ça intéressant qu'ils sortent des visual novels Nintendo qui étaient des années 80 maintenant, est-ce que ça vaut le coup, je ne sais pas.
Ça va être compliqué. Le premier DLC de Hyrule Warriors.
Peut-être qu'ils vont découvrir qu'on peut faire des combos avec la touche B.
Nous resterons là-dessus.
Ils vont découvrir qu'il n'y a pas que le bouton Y.
Bah non, il y a le bouton X pour finir les combos.
Il y a le bouton X aussi.
Non, mais vu qu'il y avait des personnages qui avaient un moveset qui n'était pas jouable, c'était évident de toute façon hein, que ça allait arriver, un DLC. Mm.
Donc ils allaient mettre d'autres personnages avec un moveset qui n'est pas jouable non plus.
C'est ça. Bon, ils vont te mettre les personnages de Karen of Time, Edwin Waker, voilà, tu vas racheter.
Zelda, est aussi intéressante à jouer soit-elle, c'est quand même très compliqué à jouer.
T'as pas avancé dans le jeu, alors.
Ah, j'ai pas plus avancé dans le jeu. Nirk, nirk, nirk.
C'est vrai que la tablette Sheka, c'est pas le plus...
C'est compliqué, voilà. Mais après...
Après, ça devient... Alors, Miitopia...
Pourquoi?
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 C'était pas le truc de la 3DS, ça?
Si, si, mais là du coup ça sort sur Switch.
Alors, je sais pas si c'est... Il est sorti enfin
c'était
depuis la 3DS.
C'était un jeu ou c'était le machin qui était inclus dans la console?
Non. Alors, Miitopia c'était un vrai jeu. Là apparemment c'est un vrai jeu. Et il y a aussi le truc qui était inclus dans la console qui est le Mi Plaza, je sais pas quoi, Run Bidule. Donc ça a l'air d'être. Miitopia c'est un peu le bordel. C'est une espèce de c'est comme une espèce d'Animal Crossing mais avec des Mi pas intéressants.
Ce qui est marrant parce que les Mi ne sont plus vraiment bien inclus dans la Switch. Enfin,
c'est
un peu oublié quoi les Mi.
Alors surtout ils le sortent plein pot ou genre à 40 balles alors que c'est typiquement un truc que j'aurais mis à 15 balles sur l'eShop.
50.
Pardon.
S'il te plaît.
Désolé, j'ai un peu.
Bon, préparez-vous la catalogue à fourcher.
Moi c'est un truc que j'aurais bien vu à 15 balles sur l'eShop. Là j'aurais pris pour voir, tu vois.
Soit ça va être un bide, soit c'est un coup de génie Nintendo.
Non mais c'est vrai que même ceux qui pouvaient avoir aimé celui sur 3DS, qui l'ont acheté 40 balles, ils vont pas le racheter pour encore plus cher. Pour quelques nouveautés sporadiques.
Rendez-nous le Street Pass, nous dit-on.
Antiche, ouais, je suis d'accord. Le 15 balles, c'est mort. Hein, le 1-2 Switch était à 50 euros.
C'est vrai, c'est vrai. Non, mais
Et on nous dit aussi, si ça ouvre des portes à la conversion 3DS Switch, je dis oui, notamment Kid Icarus Uprising. Je suis assez d'accord, Kid Icarus Uprising, je le verrais bien sur Switch.
Bon, je comptais faire la suite, blague pour un des jeux qui arrivaient après, mais Nintendo a utilisé tous les jeux Wii U, maintenant il va passer à la 3DS.
Oh, t'es un bâtard, mais c'est un peu vrai. Knockout City, alors vous m'excuserez, celui-là j'ai un peu zappé.
Je sais plus non plus.
Ah,
Alors ouais, ça peut être sympa.
Ça peut être sympa, j'espère que voilà, il y a un multi. Enfin, la présentation avait l'air assez nerveuse. Si le multi tient la route, ça peut être sympa. Free to play, je sais pas hein, s'il l'est.
Alors, la suite World Ends Club qui est pas la suite de The World's End With You.
Aucun rapport.
Aucun rapport, pardon.
J'ai pas compris. Est-ce que c'est un RPG? Est-ce que c'est un visual novel?
Est-ce que c'est un visual novel RPG dans l'univers de Dark Souls?
Je crois que c'est un jeu du gars qui a fait 999, là, l'histoire des...
Les Zero Escape?
Les Zero Escape, voilà.
Oui, c'est ça. C'est des très bons visual novels.
Donc des bons visual novels plutôt bien écrits avec des plot twists à tiroir dans tous les sens.
Et dont on attend toujours le troisième sur Switch d'ailleurs.
Donc un dating sim dans l'univers de Dark Souls.
Non, ça c'est Fire Emblem, c'est un peu bon.
Putain, comment je kifferais en vrai. Je kifferais beaucoup plus que Dark Souls, je veux dire.
Bon, pour faire un date avec les boss.
Bah oui.
C'est des dates mortels.
DC Super Hero Girls Teen Power. Alors, je suis le seul que sans enthousiasme, donc.
Alors, on va laisser les darons discuter de ça.
Oui.
Alors, en tant que gros fan de l'univers de DC, DC Super Hero Girls, en fait, c'est assez cool, parce que c'est une side series de DC, où l'objectif, c'est juste d'aller faire une espèce d'université de super-héroïne, donc c'est très très girly, mais du coup, ça se regarde assez bien, ça se lit assez bien, et c'est des histoires qui sont en fait assez, assez rigolotes. Alors, c'est pas trop trop dark ni rien, mais il y a quand même un sous-texte assez marrant, et s'ils arrivent à reprendre ça, ça peut être rigolo. Voilà.
Du coup, il y a un dessin animé à la base.
Il y a un comics, parce que c'est d'ici quand même, et il y a un dessin animé.
C'est pour ça qu'il y a cette patte graphique, alors, ok.
C'est ça.
Bon, s'ils arrivent au moins à reprendre ce ton de la série.
Voilà, le ton étant assez, assez second degré quand même sur certains trucs, donc c'est assez méta et assez second degré, comme tous les trucs de DC un peu barrés, clin d'œil à tous les gens qui lisent et qui aiment beaucoup lire Harley Quinn. Harley Quinn est très 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 méta, très second degré, parce que c'est des séries un peu mineures sur lesquelles les mecs peuvent un peu se lâcher, en fait.
Des séries un peu mineures, que les mecs peuvent un peu se lâcher, c'est tant de ce que tu viens de dire. Hein.
Bah, en même temps, c'est vrai.
Oui.
Ninja Gaiden The Master Collection, qui va reprendre donc tous les Ninja Gaiden de la... Alors à partir de la Xbox, hein, donc c'est pas la version NES, c'est le Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2...
Bon, en gros, t'auras deux bons jeux qui sont les deux premiers et le 3, voilà.
Ils t'ont pas repris d'ailleurs le trailer qui était déjà balancé sur la Wii U quand il était sorti en 2002.
C'est possible, c'est possible. Mais alors, pour avoir fait Ninja Gaiden 2 sur Xbox 360, donc la version, Sigma, c'est les versions améliorées en gros, si j'ai bien compris, c'était quand même plutôt un bon jeu, très très exigeant, très très dur aussi.
Ça dure mais faisable.
Ouais, par contre, j'espère qu'ils seront sympas et qu'ils retireront les temps de chargement à chaque fois que tu crèves, parce que c'était insupportable.
Bon, c'est-à-dire que ce serait bien qu'on ait une version un petit peu améliorée, quand même. Parce que là, c'est... Bon. Legend of Mana, alors, de mémoire, donc c'est toujours la saga Mana.
Ouais,
c'est celui de la PS1.
C'est celui de la PS1, c'est ça.
C'est le quatrième, en fait, un peu. Je sais pas.
C'est Seiken Densetsu 4.
Ouais, non, il porte pas ce nom-là, je crois pas.
C'est le quatrième, si on considère que le quatrième qui est sorti sur PS2 n'existe pas.
Oh putain.
Parce que c'est une bouse infâme.
On va encore avoir mal à la tête.
C'est le quatrième sorti chronologiquement, en fait.
Voilà, c'est le quatrième sorti chronologiquement et qui a plutôt bonne réputation.
Mais c'est pas trop étonnant qu'ils le fassent, ils ont refait le 1, le 2 et le 3 en quelques années. Donc,
tout à fait. Alors, enfin, pas le 1.
Si, ils l'ont refait sur...
Ils l'ont fait deux fois, le 1.
Il est ressorti, mais il a pas été refait.
Non, il a été refait sur mobile.
Ils l'ont fait sur Vita et sur mobile.
C'est dégueulasse.
Il est dégueulasse. Ah, ils l'ont fait.
Mais si, mais on en avait parlé pendant le podcast sur Mana.
Attends, on parle de Secret of Mana.
Adventure of Mana.
Ouais, Adventure of Mana. Et celui qui s'appelait aussi Sword of Mana sur GBA.
Putain, attendez, avec quoi je confonds alors?
Secret of Mana. Tu confonds peut-être avec la Mana Collection.
Alors,
il y a les trois.
Il y a eu Seiken Densetsu sur Game Boy. Ensuite,
c'est ça. Donc celui-là, il a pas été refait.
Seiken
Densetsu sur Game Boy,
c'est Mystic Quest.
Il a été refait deux fois. T'as eu Sword of Mana sur Game Boy Advance, comme a dit Cadeus, et il y a eu Adventure of Mana sur Vita et téléphone.
Voilà, il a eu deux remakes, le jeu.
Ah putain.
Un très bon sur GBA, et puis l'autre.
Ah le bordel.
Oui, c'est comme d'hab, hein. je te rappelle qu'il a trois noms différents en jeu.
4.
Enfin, 4 maintenant, voire 5.
Oh putain.
Selon comment tu prends.
Stop.
Après, ils ont refait le 2 qui a été.
D'accord, mais je savais pas que Sword of Mana était déjà un remake de Mystic Quest, du coup.
Je crois qu'on en avait parlé pendant le podcast sur.
C'est possible, hein, mais ça m'a échappé.
T'as eu la même réaction, je te rappelle.
Ah, mais non, mais moi, c'est Sword of Mana, c'est le truc qui me. Bon, bref. Le seul jeu intéressant de ce direct, Mario Golf Super Rush.
Juste deux secondes sur Legend of Mana, c'est pas un remake 3D comme on a eu jusqu'à présent, ils ont juste repris les assets PlayStation, ils ont mis les fonds en HD et ils ont gardé les personnages en pixels dégueulasses.
Voilà.
t'as des clashs de niveau de qualité d'image dans les menus qui est assez ignoble.
Non mais attends, ça se trouve ils vont te le refaire en 3D l'an prochain.
J'espère pas,
pour le 3, hein, parce que le 3 est sorti deux fois.
C'est vrai, c'est vrai, à l'espace d'un an en Europe.
C'est vrai. Donc je disais, le Mario Golf Super Rush,
j'achète.
Moi aussi j'achète.
Alors comme d'hab, le Mario Golf va être plus intéressant que le Mario Tennis, ça commence à me dégoûter.
Ah mais non, mais Mario Golf été meilleur, c'est la meilleure simulation de golf que
surtout...
je connaisse.
Ah, les modes histoire en plus, ils sont géniaux dans les Mario Golf.
J'espère qu'on pourra débloquer Donald Trump.
Quel bâtard.
D'ailleurs, Tigre Bois a eu un accident récemment, je tiens, voilà, c'est trivia.
Tout le monde est très... Tigre Bois, mais tout le monde est très inquiet pour sa santé.
C'est là qu'on regrette qu'il n'y ait plus les Mi, comme ça t'aurais pu faire Donald Trump en Mi, et puis voilà.
Eh ben ils sont...
C'est pas avec les Mi de l'aventure.
Si.
Oh putain,
il y a... Ah si, mais oui, c'est vrai, mais il a raison, ils y sont.
Oh mon dieu, quelle horreur. Je sais déjà ce que je vais faire sur Twitch le 25 juin.
Oh mon dieu, on sera tous là.
Non mais pour être sérieux, les modes histoire ils sont quand même cool dans les Mario Golf.
Le principe du speed golf, c'est que donc t'as un mode qui s'appelle le mode speed golf, qui est en fait Super Rush, c'est ça, dans lequel les 4 joueurs jouent en même temps, c'est-à-dire qu'à partir du titre départ, les 4 joueurs jouent en même temps, courent sur le terrain, et donc je pense qu'il y a un bonus en fait à celui qui finit le trou le premier.
Foot des tatanes.
En fait, c'est pour ceux qui demandaient Mario Foot, voilà.
C'est ça.
Mario Golf Foot
ou Mario Football américain. Moi, ça m'a fait penser à un jeu qui s'appelle Ninja Golf.
Ouais, t'es le bâtard.
après avoir tapé ta balle de golf, tu devais traverser tout le terrain pour aller la récupérer, il y avait des obstacles.
Il y avait des mecs surtout, t'avais des connards sur le fairway qu'il fallait t'attendre.
Franchement, taper la jaquette de DJ Golf, c'est genre incroyable. Il n'y a rien d'extraordinaire, vous allez juste voir la jaquette et vous allez dire oui, ok, je comprends pourquoi ça s'appelle comme ça.
C'est incroyable comme concept déjà.
On nous demande dans le chat s'il y a du online. Je suis pas sûr.
Oui, il y a du online. Sûrement. Online. Le mode Super Rush se joue en online et moi j'ai très hâte de faire ça parce que, en fait, vous rigolez, Mario Golf, ça a toujours été hyper technique. Et en fait, c'est un excellent jeu de golf. C'est-à-dire que c'est une bien meilleure simulation que toutes les simulations de golf que je connaisse. Sachant que tu peux jouer dans la. Enfin, je crois que dans tout le tour, tu pouvais désactiver tout un tas de. Genre les super tirs, les machins comme ça, les désactiver.
Ouais, c'est vrai.
Quand t'as tout désactivé, t'as une putain de simulation de golf, mais vraiment au poil de fion, quoi. Le seul truc qu'ils ont pas, c'est que quand les greens sont mouillés, et c'est ça, c'est depuis le premier épisode, je sais pas où les mecs ils jouent, où ils ont récupéré leur simulation, mais c'est vraiment à chier. Les greens mouillés, les balles fusent, elles ne ralentissent pas. C'est extrêmement agaçant.
Mais Kaamelott, ils font des bonnes simulations sportives, hein. Ils sont aussi connus pour ça. Hein. Je crois que c'est eux qui ont fait Everybody's Golf pour Sony à une époque.
C'est pas impossible.
Je sais pas si c'est eux qui avaient fait les versions Game Boy Color à l'époque, mais c'était excellent par ailleurs.
C'était excellent parce que t'avais un mode RPG en plus.
Ah ouais.
Bah, le mode histoire.
Ils ont fait toutes les versions de Mario Tennis et de Mario Golf, hein, pour l'instant. Hein.
Voilà, mais donc du coup, le seul vrai défaut des Mario Golf, c'est toujours le même depuis le tout début de la série, c'est que les mecs ont jamais vraiment mis les pieds sur un terrain de golf. Un green mouillé, c'est un green qui fuse. C'est-à-dire qu'en fait, tes balles vont beaucoup plus vite.
Ils ont trop joué à Mario Sunshine.
C'est peut-être ça, j'en sais rien, mais c'est le seul truc agaçant. S'ils arrivent à corriger ça pour Mario Golf, Super Rush, ce sera officiellement le meilleur Mario Golf de tous les temps, sachant que, je rappelle que le meilleur jeu 3DS de tous les temps, c'est Mario Golf 3D... merde, je sais plus comment il s'appelle.
World Tour,
qui est
excellent.
Qui est excellent.
J'y ai passé du temps, beaucoup de temps.
Je crois que j'ai passé genre 200 heures dessus. Enfin,
j'ai jamais réussi à gagner une coupe en or dans les tournois online.
Ah, mais... je les ai tout en or.
Oh, salaud.
Ah non, pas les tournois online.
En plus, ils ont arrêté de les faire.
Ça. Ouais. Mais je veux dire, même les modes bonus, je les ai faits, je les ai torchés, genre le mode anneau, qui était hyper hardcore, ça fallait faire des effets totalement fumés. Il fallait presque avoir un build d'un personnage pour pouvoir faire le mode.
J'étais pas super, super fan de ce mode, à vrai dire.
Ouais, mais ça marche bien, quoi. Enfin, t'en chies drôle.
Par contre, on dit Golden Sun 4, ça, je suis fan. Mais bon, ouais. C'est une autre histoire.
Ouais, alors le 3, c'était pas fou. Hein.
Stop.
C'est une autre histoire.
En parlant de jeux pas fou,
The Legend of Zelda Skyward Sword HD, moi, je suis hypé. Hein.
D'abord, ouais, pas du tout.
Il sort la veille de mon anniversaire, donc je suis hypé. Et puis en plus, moi j'avais bien aimé Skyward Sword.
C'est parce que t'as les Joy-Con bleus là qui te font kiffer.
Alors, bon, ah, j'avoue, ça aussi, ça me fait kiffer.
Alors, bon, franchement, je tiens quand même à signaler que la présentation de Skyward Sword était assez incroyable parce qu'on a Onuma qui arrive. Oui. Donc, je pense que tout le monde s'est dit il va parler de Breath of the Wild. Moi dans ma tête, il va pas parler de Breath of the Wild.
Ça n'a pas c'est la bête.
Et là, vous dites oh bah, Onuma est là, on va parler de Breath of the Wild 2. Ah bah non,
pas.
Par contre, je peux vous proposer ce remake d'un Zelda que tout le monde a testé.
En vrai, je rejoins Mortal, moi j'ai beaucoup aimé genre les donjons, les objets, l'utilisation,
ouais, j'ai bien aimé. Cool.
Le gameplay, non. Ok, je suis pas super fan. Mais...
Non, ce qui était chiant, c'est j'espère qu'ils lui ont
fermé sa gueule. Hein.
Ah non, ce que j'espère, c'est qu'il y aura un mode ta gueule fait dans les options.
Faut qu'ils ont intérêt à la place.
Non mais en vrai le jeu est pas mauvais.
Mais le jeu est très bon, enfin il y a des super bonnes idées quoi.
Attends,
les sphères du temps qui te permettent de voyager entre le passé et le présent, tu peux mettre le passé et le présent en même temps et tout, c'est super bien foutu.
Non mais il y a des super idées, le truc c'est
que c'est plus les poulets de l'espace qui me cassent les couilles.
Il y a vraiment des vrais problèmes de structure où tu reviens toujours dans les mêmes zones.
Ça c'est un peu vrai.
T'affrontes trois fois le même boss de merde, rappelons-le quand même, hein. Et il y a Faye.
Mais t'as un des meilleurs boss de la série Zelda.
Ah non, mais je pense qu'il y a deux des meilleurs donjons de la série Zelda.
Il
hein,
y a deux des meilleurs donjons, il y a
le quatrième et le cinquième, ils sont extraordinaires.
Et voilà, il y a des... Et puis ensuite, les zones que tu revisites, hein, je suis d'accord, il y en a quelques-unes qui sont un peu chiantes, mais par exemple, la zone de la forêt, tu la visites une fois, tu la visites une deuxième fois quand elle est inondée. Ça a quand même pas grand-chose à voir en termes de parcours, quoi. Alors ok, c'est le même décor, c'est la même couleur, c'est les mêmes trucs. Mais tu fais les choses différentes. Après, je suis d'accord, genre le volcan. Tu fais deux fois, tu fais vraiment deux fois. Quoi.
Je trouve que le volcan, c'est vraiment la plus mauvaise zone du jeu parce que les donjons sont pas réussis et en plus, c'est pas la zone la plus intéressante. Quoi. Enfin, c'est un
derrière le désert, il est super. Quoi.
Non, le désert, c'est vraiment le coup de génie.
Ben voilà.
Et je crois que d'ailleurs c'est la zone qui a été gérée par un DVT, enfin par un... Alors je sais plus qui l'avait géré, mais pour le coup ça a été pris en charge par quelqu'un qui est vraiment compétent, je sais plus si c'est le réalisateur du jeu ou Onuma lui-même. Mais il y avait vraiment quelqu'un de très bon derrière, ce qui n'est pas le cas des autres zones par exemple. Faut un truc comme ça. Hein.
Bref, bon en tout cas moi je suis hypé, mais c'est vrai que bon, c'est pas ce qu'on attendait, mais c'est comme d'habitude.
Et ouais, puis en plus
c'est pas ce qu'on attendait.
Bah, on s'attendait à ce qu'il le fasse hein, quand même.
Ouais, on s'attendait à ce qu'il le fasse, mais il y avait beaucoup de monde qui s'attendait aussi à une compilation comme il y a eu pour Mario. Et exactement. C'est sûr que on a du mal à comprendre pourquoi ils n'ont pas fait les Twilight Princess, Wind Waker et Skyward Sword HD, mais qui sont déjà tous faits.
Ils sont déjà faits, il y a juste à porter le code. Enfin,
il y a juste à refaire Skyward Sword,
faire des portages Wii U, t'avais deux portages dans le prix.
Oui, mais non, parce qu'ils vont te les faire 60€ l'un, les portages Wii U.
Bah, c'est pour ça que ça a été hype direct.
Le problème, c'est que. Enfin, moi, je suis d'accord. Là où ça me déçoit un peu, c'est que j'aurais bien vu effectivement un Twilight Princess Wind Waker et Skyward Sword HD parce que ça te faisait quand même à 60 balles, c'était bien.
Et puis tu peux comprendre qu'ils aient pas forcément envie de te refaire de nouveau Ocarina of Time et Majora's Mask, mais au moins les jeux qui sont déjà faits.
Bah, surtout les jeux, il y en a des jeux qui sont déjà portés en HD, le troisième.
Ocarina of Time et Majora's Mask, ils ont été portés sur 3DS à mon avis.
Ouais, il faut les refaire en HD, tu vois.
Je pense que refaire les versions 3DS en HD.
On reparle de Mario 64 sur Switch.
Non, on reparle pas de ça. Si
voilà.
Bon, allez, enchaînons. No More Heroes 3.
Ça, c'est bien.
Alors,
ça, c'est bien.
Ouais, pour le 1 et le 2, Souda, il a dit qu'il avait fait le jeu, qu'il a eu l'idée du jeu en étant assis sur les chiottes. Là, pour celui-là, je pense qu'il était assis sur les chiottes en fumant un bédo.
Est-ce que tu penses qu'il s'est fait attraper par les aliens et qu'ils lui ont mis une sonde dans le cul?
Ah, une carte
dans les fesses.
Je sais pas, mais le scénar a l'air déglingué.
Bah, c'est No More Heroes, hein.
Mais j'ai hâte.
Le truc a l'air bien pété, moi aussi.
Faudrait que je remette le trailer, j'ai pas trop fait attention. Hein.
Alors, un free-to-play sans intérêt Star Wars Hunters.
Oui.
Dont on sait beaucoup de choses.
Oui, on sait tout.
Il y aura des Baby Yoda. Je pense qu'il faudra chercher plus loin.
Donc, Project Triangle Strategy, dont le nom définitif sera donc Triangle Traveler.
Triangle Traveler. Ou Octopath Tactics dans le chat, on a eu tout à l'heure.
Ouais, mais ça colle pas avec le plan de dev. Rappelons-le, le plan de dev.
Ça ne colle pas avec l'algorithme de dev.
On avait Project Octopath, on a eu une démo pour avoir les retours. Là, on a Project Triangle Strategy, on a une démo pour avoir des retours. Donc, ça s'appellera Triangle Traveler.
Triangle Traveler. C'est imprononçable. Alors, ceci dit, moi, je sais que Mecton a testé aussi la démo.
Je l'ai fait à fond et j'ai répondu à l'enquête, du coup. Ouais.
Alors moi, je l'ai pas encore fait à fond parce que je dois faire la route alternative. Alors, c'est du Final Fantasy Tactics. Alors, que ce soit dans le gameplay ou dans l'histoire, hein, pour l'instant, on a à peu près les mêmes idées. Donc, un truc plus orienté, scénario de guerre un peu avec des traîtrises et compagnie. Alors, j'ai noté les portraits des méchants sont super clichés puisque les méchants ont tous un rictus de méchants.
Les méchants.
Il y a un truc que je trouve super dommage. Je pense que je signerai dans la démo. C'est ils se sont cassés les couilles à faire des artworks pour tous les persos du jeu qui ont un nom.
Que tu peux voir à n'importe quel moment pendant les dialogues.
Mais il faut appuyer sur X pour les voir au lieu de les mettre dans la case de dialogue comme tout le monde.
Ah, par contre, il y a un truc, je sais pas si vous l'avez
vu. Merde.
Moi, c'est le seul truc qui m'a choqué, même dans la présentation. T'as une espèce de filtre 4x4 très bizarre sur les sprites des personnages qui fait que t'as l'impression qu'ils sont wobbly, en fait,
il y a un truc un peu bizarre, en fait, d'un point de vue visuel. C'est flou, en fait. Moi, je pensais que
c'est ça. Mais en fait, ça fait une espèce de grille 4x4.
C'est ça, mais je me demande, je sais pas comment ils ont branlé leur moteur, mais là, sur celui-là, la caméra, pendant les combats, elle est dynamique. C'est-à-dire, elle tournait autour du...
C'est ça qui fout la merde.
Et je me demande si c'est juste des billboards, en fait, les persos.
Oui, non, mais c'est ça. Entre deux sprites ou je sais pas quoi, ils ont une espèce d'interpolation qui est très mal branlée.
Après, le jeu sort dans un an au minimum, donc on attend de voir modifier.
Ouais,
moi, j'avais noté 2-3 trucs. C'est qu'il y a... T'as beaucoup de friction, en fait, au niveau de l'interface. Enfin, je trouve que les combats, c'est un truc tout con, mais tu déplaces ton personnage, tu choisis une action, et après, le jeu va déplacer ton personnage et jouer l'action. Et moi, j'étais... Mais non, on fait pas... Même dans Fire Emblem, on fait pas ça. Tu déplaces, t'agis, c'est fini, point.
Mais ça, faut le noter aussi. Hein.
J'ai trouvé ça d'une lourdeur. Et alors, c'est pareil sur la carte. T'as plein de petits points où tu peux cliquer pour voir des dialogues. Les dialogues durent une minute. T'as 30 secondes de chargement en tout, au début et à la fin.
Ah, pour les scénettes, ok, les scénettes complètes.
Ah putain, mais les scénettes, c'est compliqué. Et,
ça, c'est très. Ouais, ouais.
Et
c'est très bavard pour pas. Alors, pour pas grand chose, mais il faut savoir que la démo, elle commence. Ils te le disent au début. Hein, elle commence au chapitre 6 du jeu.
Ouais, donc c'est ça.
T'as un petit warning au début, ils te disent vous allez rien comprendre à l'histoire, mais imprégnez-vous de l'ambiance.
Mais du coup, vous allez rien comprendre à l'histoire, mais du coup, l'essentiel de la démo, c'est des gens qui parlent, et t'es un peu genre. C'est dommage, c'est dommage.
Alors, est-ce que le Sénat Galactique a voté la défiance du chancelier Palpatine au milieu de la démo?
Ah, ça,
ah voilà.
C'est intéressant contre, que tu parles de vote.
C'est, ouais. C'est justement le très bon système, c'est qu'arriver entre les, on va dire arriver à la moitié à la de la démo, de... ils lancent ce qu'ils appellent la balance des convictions. Je crois que c'est ça le terme. Hein. Et en gros, c'est un système. Alors, je sais pas dans quelle mesure il sera utile dans le jeu. J'espère qu'il sera exploité assez régulièrement. Mais dans la démo, en fait, ça déterminait quel chemin on allait prendre par la suite. Donc, on avait le choix entre livrer le prince héritier ou le défendre. Et le truc qui est intéressant, c'est que du coup, c'est pas un choix dans un menu, c'est que en fait,
t'as plusieurs personnes autour d'un conseil qui participent au vote.
Voilà, et en fait, t'as un groupe de personnages, c'est contrairement à Final Fantasy Tactics où c'est tous des anonymes, ton groupe, bah là, c'est des vrais personnages qui ont une importance dans l'univers du jeu. Et du coup, faut que tu les convainques d'aller dans ton sens ou pas. Et c'est assez intéressant parce que du coup, en fait, tu peux te retrouver à devoir suivre un choix qu'ont fait tes alliés mais que tu voulais pas faire. Ce qui est une idée qui est pas mal. Après, je sais pas dans quelle mesure les personnes avec qui, enfin les autres personnages vont pouvoir faire ce qu'ils ont envie ou te suivre systématiquement quand tu les convaincs.
Alors a priori, d'après ce que j'ai pu lire de certains joueurs, je dis a priori, mais certains joueurs pensent qu'en fonction des précédents choix que tu aurais pu faire. Des personnages pourraient être plus faciles ou pas à faire changer d'avis plus tard.
Ouais.
Genre, machin se souviendra que vous l'avez trahi au chapitre 3, donc t'auras beau lui dire vas-y, viens, on va boire un coup, il te dira non, fais chier, je rentre. Quoi.
Voilà, moi je sais, enfin.
C'est une simplification.
Il y a tous un système un petit peu d'orientation des choix de ton personnage qui va déterminer un peu les personnages que tu vas recruter. Je me demande si du coup ça va pas aussi déterminer des personnages qui pourraient se barrer par exemple. Ou le fait que tu pourrais carrément te retrouver à faire une partie en jouant avec les méchants au final, tu vois.
À la Fire Emblem, du coup.
Bah ouais, en fait, c'est ce que je me suis dit en jouant au jeu, c'est qu'en fait, je me suis dit, ils ont vu Fire Emblem. Ils ont un peu vu le dernier Fire Emblem. Mais du coup, ça a l'air quand même plus organique que Trio Souls, où tu faisais ton choix au début et t'étais bloqué dans la route. Là, il y aura peut-être moyen d'avoir des modifications en cours de route et d'avoir vraiment plein d'embranchements de scénarios.
Et à la fin, tu seras devant un grand réacteur et on te demandera de choisir entre la porte bleue, rouge et verte.
C'est ça. Mais de toute façon, après avoir tué Dieu, parce que c'est un RPG japonais.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Après, le problème, c'est que ce studio-là, enfin Octopath, avait quand même pas mal d'idées et d'ambitions avec ses 8 personnages qui, au final, je trouve, ils ne les ont pas vraiment accomplis puisque dans Octopath, les 8 personnages n'intéressent pas vraiment entre eux, ce qui était toujours très dommage, j'ai trouvé. Et là, j'espère qu'ils pousseront le délire un petit peu loin, parce qu'après, il y a un système de combat à la Final Fantasy Tactics que je trouve plutôt sympa.
La tenaille, ça y était dans Tactics, ça ?
Non, ça y était pas, il y a des petits trucs en plus.
Ça, pour moi, c'est vraiment la marque du système de combat. Quoi. Placement est hyper important.
Il y a toute une idée de placement et de combinaison basée sur les compétences. Enfin, moi, un exemple que j'avais eu, c'était on se battait dans des champs de blé et tu pouvais cramer le champ avec la magicienne et après tu pouvais. Il disait, mais tu peux pousser un mec dedans avec ton gars baraqué, quoi. T'as un coup d'épaule qui repousse les gens. Parce qu'il peut. Parce que why not?
on va continuer et finir donc Capcom Arcade Stadium.
Putain, le bordel!
Ils ont encore mis un portage Street Fighter 2.
Oui, non mais
genre le troisième de la console.
Quand ils ont présenté le truc, je me suis dit, ok, une compile de mini-jeux, pourquoi pas. C'est vendu en bundle, c'est de la vente à la pièce. Quand tu l'achètes, t'as pas la totalité des jeux.
Ah oui, d'accord, il y a des DLC, quoi.
T'as deux jeux, je crois, gratuitement. C'est Ghostel Goblin, c'est 1943.
En plus, les deux meilleurs.
Autant émulé, quoi.
C'était ironique.
Sinon, vous connaissez MAM. C'est pas mal aussi, c'est la même chose, mais c'est gratuit.
Fall Guys Ultimate Knockout, donc je pense que ça y est, c'est un petit peu comme Among Us, c'est en train de se casser la gueule, c'est bon.
Alors Among Us, ça marche toujours. Hein. Ça a pas mal décollé au Japon dernièrement. Bah, ça marche pas aussi bien qu'en fin d'année dernière, mais...
Mortal prophétise.
Je prophétise que les gens vont se lasser d'un jeu flash dans lequel le seul intérêt, c'est l'interaction entre les joueurs, oui.
Bah, franchement, bon, c'est un jeu, je
crois que c'est... J'ai pas dit que c'était mauvais, je te dis que... Bon.
Après, c'est comme tous les jeux, au bout d'un moment, ils tiennent ou ils tiennent pas, quoi. Oui. Hein.
Outer Wilds.
Dont on parlait tout à l'heure.
Et qui alors, donc est un jeu avec une boucle de quelques minutes.
Ça doit durer une vingtaine de minutes, je crois, maximum.
22 voilà. D'après le direct. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça aurait pu tenir dans la totalité du direct.
C'est pas faux. Ça aurait même pu tenir plus de deux fois, au moins.
Voilà, donc le principe étant, on refait toujours la même boucle, mais évidemment, à chaque fois, il y a des modifs.
Alors, je vous conseille...
C'est plus compliqué que ça.
Je vous conseille d'attendre d'avoir des retours sur le portage Switch. Parce que moi, j'ai joué à la version PS4, donc console plus puissante que la Switch. Et ça tournait bien, mais ça sentait que des fois, la PS4 était par terre. Parce que même si le jeu est assez simple visuellement, et je pense que le downgrade ne se verra pas trop sur Switch, c'était vraiment tout ce qui était le processeur pour gérer les changements dans le système solaire en temps réel. Prenez des ressources, donc je ne sais pas ce que ça va donner sur Switch.
Et là, donc, c'est la version cloud. C'est ce qu'on nous avait pas dit.
C'est sérieux ou...
Non, c'est pas sérieux.
Mais si le portage est de qualité, je vous recommande. Hein. Clairement, c'est un très bon jeu à faire. Et en plus, l'été, c'est vraiment un jeu de country, parce que bon, c'est clairement le thème musical du jeu. Donc, c'est un très bon jeu pour se poser l'été, je pense que... Ce sera frais.
Samurai Warriors 5, alors YYYYX.
Encore donc. Un mousseau.
Voilà, stop. Neon White.
Alors, ça a l'air très cool, ça.
Ça a l'air. Alors, ça me fait la même impression que Killer 7. C'est-à-dire, sur le papier, ça a l'air très cool, mais en fait, c'est un putain de shooter, donc rien à foutre.
Ouais, bah, mais là, il y a des cartes.
Alors, ce qui est rigolo, oui, c'est
je
le
sais pas
système
quoi
où tu peux sacrifier. Non, alors, si. Enfin, c'est ça. Tu peux sacrifier des cartes pour avoir des bonus, et les cartes t'en repiochent régulièrement sur les ennemis que tu tues, ou je sais pas quoi. Donc il y a une espèce d'aspect tactical shoot un peu curieux. Ok. Mais ça a quand même l'air d'être juste un shoot.
Je sais pas.
Faut voir. J'attends
de voir, parce que c'est un jeu Annapurna.
Ils ont un joli backlog, on est bien d'accord.
Ils ont souvent le backlog. Bah, Outer Wilds est aussi un jeu Annapurna, hein, je tiens à rappeler.
Et Sayonara Wild Hearts. Qui est très bien, est aussi un jeu Annapurna.
Voilà, donc ils ont quand même un bon pedigree pour des petites trouvailles, et New Moid, ça peut être très sympa. Bon, en plus, il y a un côté visuel novel au passage.
Ça fait pas de mal.
Donc est-ce qu'il y aura de la drague avec les deux assassines qui ont des gros seins, je ne sais pas.
J'espère, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc...
Je vais marquer The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Lulz.
On sait pas, Lulz. Non, alors stop. Il y a eu un One More Thing auquel personne ne s'attendait.
Oui,
en tout cas, moi, je ne m'y attendais pas.
Pas si tôt. Ça fait 5 ans. Hein. Enfin, ça fera 5 ans l'année prochaine.
En vrai, mon coloc l'avait prophétisé comme ça.
Mon Dieu.
Histoire de. Incroyable. Je sais pas, mais c'était une blague. C'était une blague pourtant.
Et bien pourtant, c'est une blague qui s'est réalisée puisque Splatoon 3 vient d'être annoncé pour 2022.
Et alors le twist, c'est que Paris n'existe plus.
Ah non, le twist est...
Il n'y a plus d'humains depuis longtemps dans Splatoon, gros.
C'est pour de vrai, le vrai twist du truc, c'est que Splatoon 3 se déroule dans un monde post-apocalypse climatique. C'est officiel.
Mais Splatoon 1 aussi, gros.
Mais où la ligne B existe encore.
Oui, et la ligne C.
Le festival final de chaque épisode influe le scénario de celui d'après. À la fin du 1, c'était je sais plus laquelle des deux chanteuses qui avait gagné. Du coup, dans le 2, c'est l'autre qui a disparu.
C'est ça. C'est
et là, le Splatfest final du 2,
c'était
chaos versus
ordre.
C'est le chaos qui a gagné. Bah voilà ce que ça donne dans le 3.
Si ça avait été l'ordre, ça aurait été quoi? Ça aurait été une dystopie splatoonienne.
Fasciste, ouais. Fasciste.
On aurait pu porter des uniformes Hugo Boss.
Putain, mais moi, sans déconner, je veux qu'il sorte Splatoon 3B, qui serait la version alternative de Splatoon 3.
Je valide.
C'est vraiment le mode alternatif.
Putain, ça me ferait voyager en vrai.
Mais d'ailleurs, dans les petits trucs intéressants du trailer, ils ont, alors le truc qu'ils ont le plus montré, c'est la customisation.
Notamment de ton chien.
T'es accompagné par un sombre et tu peux choisir entre être un Octoling ou un Inkling.
C'était déjà le
cas inclusif.
Dans Splatoon 2.
Ouais, mais non. la ville de Chromapolis c'était que pour les Inklings quand même. Alors que là, ils sont dans, bah, dans la ville.
Splatoon 3, Final Prologue 1.4. Ah, merci Manolo. Elle est incroyable. J'adore les blagues sur le titre de Kingdom Hearts.
Oh putain, c'est incroyable. Mais
qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On peut choisir a priori les points de spawn sur la carte.
Ou
en cas de mort.
C'est ça. En cas de mort, je sais pas, mais.
Enfin, en cas de mort, moi j'ai un doute aussi en le disant. Je me suis
en tout cas, c'est clairement c'est pour éviter les spawn kills et c'est une bonne idée.
Après, ça restera un jeu qui va, dans son concept de base, rester dans la base de Splatoon, c'est-à-dire un shooter où tu dois repeindre la tronche de l'adversaire et le décor.
Alors, c'est pas tout à fait ça, je me permets quand même de corriger. Il faut tartiner l'arrêt de l'adversaire avec le plus de peinture possible.
J'avoue que tu le dis mieux que moi.
C'est la définition même du truc.
Je me permets d'approuver.
J'attends de voir les nouveautés, c'est vrai que sur Splatoon 2, on s'était tous dit c'est une version 1.5, et puis en fait, bah non, pas vraiment. D'abord parce que t'as des modes supplémentaires, genre Salmon Run, et ensuite parce que le jeu a été quand même grandement modifié, notamment par l'arrivée des parapluies.
Non, et puis bah, ne serait-ce que oui, c'est une version 1.5, mais enfin, tout le monde avait pas la Wii U.
Oui, en plus, mais je veux dire, ça reste une version qui est... Il y a des nouveaux terrains, donc ça, c'est, effectivement, ça change pas. Il y avait quand même des nouvelles armes qui apportaient vraiment quelque chose. Les parapluies, qui est basiquement un fusil à pompe, ça change énormément ta façon de jouer.
Oui, alors après, ça restait quand même une version améliorée, dans le sens où tu te sentais pas vraiment perdu pas quand t'avais joué au premier. Ça restait quand même relativement similaire et il y a eu deux ans d'écart entre les deux jeux, donc c'était à peu près logique qu'il n'y ait pas trop de nouveautés.
Après, faut pas oublier que Splatoon, ça évolue durant sa durée de vie, entre le Splatoon 2 au début et ce qu'il est à la fin. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'ajouts. On peut plus trop dire que le 1 et le 2, c'est le même maintenant.
Non, c'est clair. Après, le 3, bah oui, je suis curieux de voir les nouveautés, parce que c'est vrai que ce qu'on a vu pour l'instant, ça reste assez similaire à ce qu'on avait vu dans
Il y a des Inklings, il y a de la peinture.
Il y a toute l'intro de la présentation où on s'est demandé si c'était pas un jeu solo, Splatoon Adventure ou un truc comme ça. Quoi.
Peut-être qu'il y aura un mode solo plus poussé, hein, parce qu'il pourrait se le permettre.
C'est-à-dire que quand tu vois l'Octo Extension qui était vraiment excellente, les mecs pourraient se permettre d'avoir effectivement un solo qui ressemble à ça. Et à la limite, moi je serais assez... honnêtement, un dating sim visual novel Detective Club, Splatoon 3, moi je suis client.
Splatoon Open World Online RPG.
Splatoon Mousseau.
Je pense que Splatoon Triangle Stratégie, Traveler.
Ouais, le Splatoon Mousseau, ok, mais après le Pikmin Mousseau.
Alors, moi j'ai toujours dit que le Pikmin Mousseau, tu joues les méchants de Pikmin, pas les Pikmin. Ouais, je serais intéressant de savoir ce qu'ils vont faire. Après, faut pas oublier que Splatoon, ça reste une licence qui est ultra populaire au Japon.
Oui, ça marche super bien au Japon. C'est la folie.
On ne voit pas trop de chez nous parce que Splatoon, ça. Ça n'a pas tenu autant, mais au Japon, c'est super populaire.
La dernière fois que ma femme est allée au Japon, elle a ramené une quantité de merchandising Splatoon, mais complètement hallucinante.
T'as même un manga
Splatoon. Qui
est sorti chez nous, d'ailleurs.
Attends, moi, j'ai deux figurines Splatoon. Alors, j'ai une figurine Splatoon que tu peux habiller de manière un peu différente, et j'ai deux pistolets. Genre le graffeur, je sais plus quoi, et l'autre, l'aérosol, machin truc. Et apparemment, tout est disponible. T'as des gachapons, t'as des mouchoirs, t'as des sandwichs, t'as des figurines, t'as des
sandwichs.
Est-ce que c'est des sandwichs à la sèche?
Oui. Des sandwichs au poisson.
Mais remarque, ce serait largement faisable parce qu'au Japon, hein, c'est bien leur truc, les fruits de mer.
Ah, complètement.
Tiens, si vous avez l'occasion, l'artbook, il est génial.
Ah bah, pour le coup, la DS Splatoon, moi j'aime beaucoup, hein.
Ah oui, on me dit qu'il y a aussi de la nourriture Splatoon.
Oui, c'est les personnages.
Il y a des concerts
Splatoon. Non, mais c'est. Enfin,
il y a eu le concert à la Japan Expo des deux premières chanteuses.
Oui,
hein.
Oui.
On aura le concert des deux autres s'il y a une autre Japan Expo un jour.
Lol.
En première partie des Daft Punk, allez hop.
Putain, quel connard.
Mais ça se trouve, on verra vraiment le concert, mais en vrai, parce que le monde va changer et se transformer dans le monde de Splatoon.
Oh oui. Donc posez-vous la question, est-ce que tu es un garçon ou est-ce que tu es un calamar?
Bah maintenant, la question se pose plus trop.
Tu es un calamar.
Ils posent plus la question du sexe d'ailleurs dans la customisation, c'est des gens qui avaient remarqué ça.
Bah c'est-à-dire qu'en même temps, il n'y avait pas vraiment de sexe parmi les Inklings, les
Ça ressemble, ça n'est pas trop différent.
Ça changeait tes coupes de cheveux possible.
Ça, ça
voilà,
et ta tenue aussi.
Sauf que voilà. Maintenant, tu peux choisir la coupe de cheveux que tu veux, quel que soit ton sexe.
Oui, donc du coup, effectivement.
Bon, après, sur des calamars, voilà.
Bon. Oui, non, mais c'est ça. Ça restait quand même très androgyne. Hein.
Bref. Bon, et eh bien écoutez, on va peut-être terminer cette émission-là qui a duré beaucoup trop longtemps, comme prévu. Hein, j'avais fait un conducteur en me disant ouais, 22h, c'est torché.
Voilà, une heure et demie, comme d'hab.
Hein.
On aurait pu faire comme à chaque fois.
Tu étais optimiste.
C'était extrêmement optimiste, je dois bien reconnaître. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, on va se retrouver dans 2 semaines. Ça, c'est à peu près une certitude. En podcast, peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude, peut-être que ce sera demain après-midi.
Oh.
Tu télétravailles ?
Non, je suis pas là demain, donc du coup, je suis pas au travail demain, donc du coup, j'aurai peut-être le temps de faire ça. C'est pas gagné, mais il y a peut-être moyen.
Ah ouais, attends, JBC qui nous dit dans le chat, Blizzard refait Diablo 2 et il sortira y compris sur Switch.
On s'en bat les couilles.
Bah, il y a Tony Hawk Pro Skater 2 aussi qui sort sur Switch.
Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2.
Ah oui, pardon.
Mais excusez-moi.
C'est les remakes sur PS5, ce sera pas, hein, pour avoir testé.
Voilà, enfin bref, c'est une bonne nouvelle aussi. Bref, donc en tout cas, on se retrouve dans 2 semaines. Je vous donne déjà le plat principal, le plat de résistance, comme disent les Anglais. Ce sera Super Mario 3D World et Bowser's Fury, puisque Cyrar nous fera le plaisir d'être parmi nous pour parler de Super Mario 3D World. Et ça, ça fait quand même hyper plaisir.
Ta présence est si rare.
Ça... Il est 22h30. Voilà, merci beaucoup Caduceus de nous avoir rejoint pour cette émission.
Bah, je t'en prie, merci
si
de l'invitation.
Si tu as envie de revenir dans 2 semaines, bah, tu fais comme tu veux.
Bah écoute, maintenant que je suis abonné au Twitch, déjà, j'aurai la notif à chaque fois pour me le rappeler. Ah oui, attends, c'est vrai qu'il y a ça.
Ça, on est le seul bar de France ouvert, hein, donc t'as pas le choix.
C'est le dernier. Résistance.
Les premiers seront les derniers.
Ah, on tape à la porte.
Ah, c'est l'ordre qui frappe.
Excusez-moi.
Bonjour, gendarmerie nationale.
Papier du véhicule, pardon. Votre bar est ouvert, c'est illégal, monsieur.
Papier du bar et une petite pinte, s'il vous plaît.
Voilà, bref. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines. Je pense qu'il y aura de l'actualité, des petites choses comme ça qui sont tombées. Peut-être qu'on fera un petit truc sur Little Nightmares 2, mais c'est pas sûr. Comme je suis le seul pour l'instant à l'avoir fini.
Eh ben, je le reçois demain.
Eh ben, ben écoute, si t'as le temps de le finir entre deux, peut-être qu'on pourra en discuter un peu.
On va finir peut-être pas, mais on verra.
Ça va très vite à finir. Ça va très très vite à finir. Surtout quand tu aimes ma technique de speedrunner. Hein, donc,
enfin.
Bref. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines. Bisous, ciao tout le monde.
Bye bye.
Salut.
Bye.